Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Comment notre enfance façonne-t-elle l'homme ou la femme que nous devenons? Est-ce que nous apprenons la domination, nous, les hommes? Et si oui, eh bien, traversons-nous une crise de la masculinité, un malaise dans la façon d'être un homme, un garçon, aujourd'hui plus qu'hier? Face au malaise en tout genre, face aux crises d'identité, il y a, vous le savez, l'écriture. Mais que peut l'écriture? Eh bien, ce sont quelques-unes des questions passionnantes que nous allons aborder ce soir en compagnie de trois écrivains très différents et qui pourtant abordent à leur manière ces sujets entre romans, récits et livres d'histoire. J'accueille Leïla Slimani, Philippe Besson et Yvan Jablonka. Bonsoir Leïla Slimani.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver.
Moi aussi.
Prix Goncourt, il y a 4 ans, pour Chanson 12. Vous vous êtes imposée, Leïla Slimani, comme l'une des voix majeures de la jeune littérature française. Vous publiez un livre surprenant, excellent, intitulé « Le parfum des fleurs la nuit ». Il y est question d'un musée dans lequel Leïla Slimani est enfermée une nuit, mais il y est surtout question de l'écriture qui peut réparer des souvenirs d'enfance, de ce que l'on doit à un père ou à une mère. Que doit-on à une mère, à sa propre mère? Tiens, la question est au cœur de votre nouveau roman, Philippe Besson. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Le dernier enfant, 20e roman de Philippe Besson, dites-moi.
Oui, le temps a passé vite.
Oui.
On va dire ça comme ça.
Je n'ose pas dire depuis combien de temps vous venez présenter vos romans sur ce plateau.
Bah, 13 ans, je pense, c'est ça.
Avec une belle constance.
Oui.
Peut-être parce qu'à chaque fois, on a le sentiment que vous allez écrire la même chose et que vous nous déroutez. Que vous trouvez le moyen, en parlant toujours des délicatesses, des failles, des moments de vacillement, de nous surprendre. C'est le cas encore, vous interrogez avec beaucoup de finesse le drame, qu'est le départ d'un enfant du foyer familial, de la cellule familiale, et on reviendra sur le sens du mot cellule pour votre personnage, Philippe Besson, une mère qui ne parvient pas à accepter le départ de son dernier enfant. Yvan Jablonka, bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Alors vous êtes, vous quand même... Alors, je ne sais pas comment vous définir, Yvan Jablonka. Vous êtes historien, enfin un historien un petit peu spécial tout de même, il faut bien le dire. D'abord parce que vous écrivez sur des sujets qui sont rarement abordés à l'université, l'histoire de l'enfance, les filles-mères, les victimes anonymes, les enfants abandonnés. Tiens, premier point commun, me semble-t-il, avec Philippe Besson et avec Leïla Slimani. Je rappelle l'immense succès de Laetitia, Prix Médicis. Tiens, c'était l'année où vous avez remporté le concours, je crois,
ouais,
Leïla.
Tout à fait. Hein,
il y a 4 ans, puis il y a eu Camping Car, Prix France Télévisions. Et puis, historien un peu particulier, parce que votre méthode vous conduit à écrire des livres très personnels. Vous publiez aujourd'hui Un garçon comme vous et moi. Et pour être franc, eh bien, c'est la lecture de votre livre qui m'a donné envie de vous réunir tous les trois sur ce plateau pour aborder la question qui vous obsède, Yvan Jablonka, la crise de la masculinité. Est-ce que ça vous touche, Leïla Slimani, cette obsession d'Yvan Jablonka, crise de la masculinité?
Oui, bien sûr, parce que je crois qu'on ne pourra pas vivre une vraie révolution féministe ou une vraie égalité entre les hommes et les femmes si les hommes ne s'interrogent pas aussi sur ce que c'est que d'être un homme et ce que c'est que la masculinité. Mais je me suis quand même fait une réflexion, c'est que pour une femme, je crois que la masculinité n'est pas du tout un territoire étranger. C'est un territoire très familier, parce qu'en fait, les femmes ayant été tenues pendant très longtemps à l'écart du récit, toutes les femmes ont vu plein de films faits par des hommes, ont lu plein de livres écrits par des hommes, plein de peintures dessinées par des hommes. Donc nous, le regard masculin, non seulement nous le connaissons, mais parfois même nous pouvons porter un regard masculin sur le monde. Je parle par exemple dans
vous
mon livre de...
Vous pensez que vous avez un regard masculin?
Marilyn Monroe par exemple, j'en parle dans mon livre, Marilyn Monroe, je la regarde aussi à la manière dont les hommes l'ont regardée, parce qu'elle a été tellement enfermée dans ce rôle de la femme vue par les hommes, que est-ce que moi je suis capable aujourd'hui de me défaire de ce regard pour regarder Marilyn en tant que femme. Donc, je crois que pour les femmes, la masculinité est plus familière peut-être que ne l'est le regard sur le monde qu'ont les femmes, parce que ça ne fait pas si longtemps finalement que les femmes ont la possibilité d'avoir une parole et de pouvoir de manière plus massive donner un regard sur le monde.
Vous avez tapé juste, hein, Yvan Jablonka. Oui, le sujet est partout et il intéressera autant les femmes qui vous liront que les hommes qui vont découvrir votre livre. On va plonger si vous voulez bien, Yvan Jablonka, dans cette masculinité en crise. On va peut-être mettre un point d'interrogation, hein, pas généralisé. C'est ça qui est fort dans votre livre, c'est que vous partez du particulier et vous refusez toute forme de généralisation. Livre qui est déroutant. Je dois vous avouer que de prime abord, je me suis dit, il exagère, là, cette fois-ci, Jablonka. Il nous livre son autobiographie, alors extrêmement détaillée, le plus possible, jusqu'aux détails les plus impudiques, parfois.
Vraiment ?
Ah bah oui. Et puis, le miracle arrive, la force de l'écriture. On se prend à la lecture de votre histoire, qui, en fait, raconte la nôtre, la vôtre, à travers cette enquête sur lui-même. Yvan Jablonka cherche à cerner ce que veut dire être un homme. Enquête sur la condition masculine, sur son malaise, peut-être sa crise. Un garçon comme vous et moi, ça vient de paraître aux éditions du Seuil, vous écrivez, alors ça c'est très frappant, dès la première page, la masculinité n'a cessé pour moi d'être un problème, une question en suspens. J'aimerais bien savoir en quoi je suis un homme, et même si j'en suis un. Tiens, quand est-elle née, cette interrogation un peu surprenante ?
Je voudrais revenir sur la notion de crise de la masculinité. Je suis pas sûr d'être certain d'être d'accord avec cette formulation, parce que on est quand même dans une société globalement patriarcale où ce sont les hommes et le masculin qui dominent dans des domaines aussi différents que l'économique, le politique, le militaire. Donc les hommes sont encore globalement aux manettes, si je puis dire. Mais j'ajouterais immédiatement qu'il y a sans doute pas une crise de la masculinité, mais une montée des doutes. Il y a une montée des doutes sur ce que c'est qu'être un homme, et notamment ce que signifie le masculin aujourd'hui, et tout particulièrement après MeToo. En tout cas, moi, c'est une question que j'ai prise de plein fouet. On a beaucoup dit que la parole des femmes s'était libérée après MeToo, l'expression est un peu bizarre, mais enfin, globalement, c'est vrai. Mais moi, j'ai été frappée par le silence épais dans lequel des millions d'hommes se sont ensevelis après MeToo, comme si MeToo ne les concernait pas, comme si le féminisme, l'exigence d'égalité, les revendications de droits, ça ne les concernait pas. Moi, MeToo, je l'ai pris, non pas pour moi-même, parce que je ne me suis pas senti visé personnellement, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le masculin ?
Vous écrivez que ça a été un révélateur pour vous.
Ben, je crois que je n'aurais pas fait ce livre sans MeToo. Alors, bien sûr, il y avait des choses, je m'interrogeais déjà sur mon genre, ce que c'est que le masculin pour moi, pourquoi je suis à la fois dans une forme de domination et d'illégitimité, de dissidence. Donc, le masculin n'a cessé pour moi d'être un problème. Mais ce qui est certain, c'est que MeToo pose à tous les hommes cette question. Quel type de masculinité voulons-nous aujourd'hui ? Que faire des hommes, en fait ?
Mais ces doutes dont vous parlez, est-ce qu'ils n'ébranlent pas l'édifice classique, celui, j'allais dire, de la démarche extrêmement virile, qui consiste à présenter la masculinité uniquement du point de vue de la virilité, donc de la domination, d'un rapport de séduction violent, et puis d'une forme de patriarcat ? Est-ce que ces doutes, ne naît pas tout de même une crise ?
Bien sûr, on associe beaucoup masculin, virilité, puis un certain nombre d'injonctions de genre que tout le monde connaît. Pleure pas, tiens bon, donne ton avis, sois arrogant, coupe la parole aux femmes parce que c'est plus important ce que tu dis. Ou comme me disait mon propre père, t'es pas en sucre. T'es pas en sucre.
Il vous disait ça ?
Oui, il me disait ça. T'es pas en sucre. Un jour, je m'étais fait piquer sous le pied par une vive, ce poisson très venimeux, sur une plage de l'Atlantique. J'avais 10 ans, je pleurais. Et puis, il m'a un peu engueulé. Il m'a dit, arrête de faire du cinéma, t'as pas mal. T'es pas en sucre, t'as pas mal. Dieu me pardonne, mais j'avais très mal. Et je pense que c'était une forme d'injonction de genre. Et mon père a été un bon père, il ne s'agit pas de ça. Mais c'était une manière de dire, un garçon, ça pleure pas, ça se plaint pas. Ça tient bon. Eh bien, je crois que c'est tout le contraire. En tout cas, pour ma part, je me sens fragile, je me sens vulnérable, je me sens parfois comme une falaise qui s'effrite. Quand je pleure, je pleure.
Vous pleurez ? Vous êtes un homme qui pleure ?
Évidemment, enfin, comme vous savez, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, Ulysse, Achille et Agamemnon pleurent. Alors, je ne dis pas que je suis un héros. Enfin, vous voyez que depuis que le monde est monde, les hommes pleurent.
Qu'est-ce qui se passe quand on entend « t'es pas en sucre » ? Vous l'avez entendu, vous, Philippe Besson, cette expression ? Ou une expression similaire ?
Oui, je l'ai entendu souvent. Moi, j'ai été soumis à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, j'avais effectivement un père qui, comme celui d'Yvan, je pense, ou en tout cas comme les pères, on va dire, d'une manière générale, me disait, il faut s'endurcir, mon garçon, il faut te préparer à un monde qui est hostile, le monde ne t'attend pas, donc il faut être fort, il faut être courageux, il faut être valeureux, qui a développé chez moi l'esprit de compétition, il fallait toujours avoir les meilleures notes. Mon père était une figure d'autorité, en plus. C'était mon instituteur. Donc, en classe, je disais monsieur et vous. Hein. C'est dire d'où je viens, quand même.
Vous avez vous voyé longtemps votre père.
J'ai vous voyé mon père pendant longtemps. Je disais monsieur, donc je viens de là. Et à côté de ça, je comprenais que ça avait l'air d'être les valeurs masculines, ça. Voilà. Et de l'autre côté, j'avais une mère qui était à peu près le contraire, c'est-à-dire qui, elle, m'amenait du côté de l'empathie, de la bienveillance, de la sensibilité, de la générosité, qui me disait « fais comme tu veux et si tu n'as pas envie d'aller jouer au foot, n'y va pas ». Et donc, j'étais perdu entre ces deux choses-là et je supposais à ce moment-là que c'était des valeurs féminines que développait ma mère, parce que c'était une femme. Et donc, j'ai navigué au milieu de tout ça. Et ça m'a longtemps perturbé. Alors, je me posais pas la question de est-ce que je suis un garçon ou une fille. J'ai très bien compris que j'étais un garçon, et j'ai compris aussi très vite que j'aimais les garçons. Mais fondamentalement, c'était très bizarre de naviguer dans ces injonctions contradictoires. Oui.
Excusez-moi, mais moi, j'ai pas l'impression que quand on soit une petite fille, on vous dise mais tu es en sucre, vas-y, tu peux pleurer, mais comme tu es une fille, vas-y, montre ta vulnérabilité et ta fragilité. Les petites filles aussi, on leur dit t'es pas en sucre, mais pas pour la même raison. On leur dit aussi, tu sais, moi, en tout cas, les femmes qui m'ont élevée, comme elles savaient que j'allais vivre dans un monde qui était un monde par essence violent pour les femmes, un monde dans lequel j'allais être encore plus vulnérable parce que je n'étais pas un garçon, précisément, on me disait tout le temps, ne pleure pas, sois forte, il va falloir que tu sois indépendante, il va falloir que tu te battes deux fois plus que les autres, que tu sois deux fois plus ambitieuse que les autres. Donc je crois qu'au contraire, cette injonction, elle est presque plus dure pour les filles que pour les garçons. Je ne crois pas du tout qu'au contraire, on ait une forme de respect ou d'indulgence pour la pseudo ou supposée vulnérabilité des filles. Au contraire, on est encore, à mon avis, plus dur avec les petites filles.
Et ce n'est pas l'apanage des garçons.
Absolument pas.
De « t'as pas mal » que vous avez entendu alors que vous aviez mal, arrive très vite, en terminale, « je ne suis pas un mâle ». Mais alors là, on l'écrit autrement, le mot « mâle ». Qu'est-ce que c'est que cette provocation, ou alors au contraire, cet aveu qui sort et qui vous vaut d'ailleurs d'être épinglé par le bêtisier de vos camarades, vous le racontez dans cette autobiographie, puisqu'en terminale, voilà, vous criez dans votre classe. Il faut dire que vous êtes dans un lycée, tout ce qui est très, très bien, un hein, monde bourgeois, c'est Henri IV, c'est ça, à Paris. Je ne suis pas un mâle.
Alors, ça, c'est effectivement en terminale. C'était une terminale scientifique dans un milieu ultra-élitiste comme la France prétendument méritocratique est capable de les inventer. Et j'étais dans un milieu qui me rendait malheureux. J'étais entouré de mâles alpha, enfin, ou de garçons alpha qui s'apprêtaient à diriger la France, qui le savaient, qui exsudaient le pouvoir et la confiance. Et moi, je me sentais pas à ma place. Je me sentais fragile, je me sentais un peu nul, je me sentais piètre dragueur. Et ma manière de leur faire, d'exprimer ce malaise dans le masculin, c'était de dire, de clamer, de manière un petit peu pompeuse et donc ridicule, « je ne suis pas un mâle ». Et puis j'avais dit aussi à un camarade, « j'aime ta présence masculine et racée ». Phrase un petit peu ridicule. Et alors,
belle.
Mais c'est drôle, c'est gentil de me le dire comme ça.
Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce milieu qui était plein d'esprit de sérieux et de volonté de pouvoir, ils se sont dit, « voilà un homosexuel, voilà un gay ». Je ne l'étais pas, peu importe, je me serais honoré de l'être, mais enfin, peu importe, je ne l'étais pas. Mais il se trouve que mon ultra-sensibilité de fille, ou en tout cas ma fragilité, ou mon sentiment comme ça de vulnérabilité, avait été interprété comme un exemple de culture gay, et non pas comme une modalité du masculin, ce que c'était en réalité.
On peut rappeler que vous êtes né en 1973, c'est-à-dire que cette scène a lieu dans les années 80, à la fin des années 80, à une époque où il y a une autre injonction dans les cours de récréation jusqu'à la terminale, qui est justement la virilité, avec une opposition parfois très, très violente entre le code viril et puis ce qui peut sembler ne pas l'être. Vous écrivez à ce sujet, page 244, « Parfois je suis femme dans ma manière d'être homme, gay dans ma manière d'être hétéro, c'est-à-dire ».
Ça veut dire que je me sens dans une espèce de fluidité. Je ne parle pas ici exactement de désir désirant ou ni de sexualité, mais je parle plutôt de manière d'être. Oui, il m'arrive d'être très féminin dans ma manière d'être homme ou d'avoir des attitudes qui sont codées, à tort ou à raison, comme étant homosexuelles, alors que je crois être hétéro. Mais ça ne me pose pas problème, je pense même que c'est une forme de richesse. Je crois qu'il n'y a pas une seule manière d'être homme qui consisterait à dire « pleure pas et t'es pas en sucre ». Je crois qu'il y a mille et une manières d'être homme. Et moi, c'est libérateur pour moi de me dire que ben, je suis homme de plein de manières, parce que je suis capable de regarder un match de foot avec des copains en buvant de la bière et en hurlant quand il y a un but.
Ah, vous faites ça ?
Ben oui, en tout cas je le faisais.
Ouais,
je me passionne pour les motos, les voitures et les fusées. Et en même temps, j'ai aussi voilà, une espèce de passion pour des choses qui sont, à tort ou à raison, codé comme moins masculin ou plus féminin. En tout cas, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais, donc, je sais pas, 18, 19 ans, j'aimais la poésie, j'écrivais de la poésie, mauvaise, mais la question n'est pas là. Et puis, j'adorais l'opéra. Eh bien, le regard que beaucoup renvoyaient sur moi était celui d'une femmelette, d'un homo. Et c'est pas moi qui le dis, c'est toute la société qui vous assigne à des choses comme ça qui sont en fait qui sont la prison du genre. Et moi, j'étouffais dans ce carcan. Et quand j'ai senti qu'en fait j'avais le droit d'être homme de la manière dont je le ressentais, dont j'avais envie, dont eh bien en fait ça a été libérateur. Et je crois que je suis devenu un petit peu plus heureux.
Mais en quoi est-ce que cela crée des doutes ? Je reviens sur ce mot que vous avez employé dès le début de l'émission, c'est-à-dire vous dites qu'il y a deux parts en vous, on a parfaitement compris, qu'elles n'ont pas l'air de se chamailler, que vous semblez bien avec ces deux parts, mais vous avez également écrit tout ce livre pour pointer les doutes sur aujourd'hui une certaine forme de masculinité, sur la représentation, sur aussi les rapports de domination. En quoi est-ce que tout cela est générateur pour vous de doutes ?
D'abord, il y a le défi que le féminisme pose aux hommes. C'est MeToo et j'en ai parlé. Mais il y a aussi une autre chose importante, c'est que je me suis aperçu que les petits garçons ne naissaient pas dans les choux. Les petits garçons, le masculin, ou en tout cas cette garçonnité, ça se produit, ça se fabrique. Ça s'incube, ça se mature. Et moi, j'ai essayé, pour comprendre ces phénomènes à la fois psychologiques, collectifs et sociaux, eh ben, j'ai essayé de prendre mon propre exemple. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, le petit Yvan, quel type de petit garçon c'était ? Et donc, j'ai fait cette espèce d'autobiographie ou de socio-histoire pour comprendre ma garçonnité, le moi garçon ou même le nous garçon à la fin du XXe siècle.
Et c'est ça qui est passionnant. Au début, d'ailleurs, ça semble un petit peu fou parce qu'il y a tout, il y a absolument tout. Alors, vous avez des parents qui avaient renseigné la case Yvan Jablonka depuis le jour de votre naissance. C'est complètement fou, non ? Où on voit les photographies du petit Yvan un jour, la première dent de lèvre.
Le poids, l'évolution du poids.
Voilà, des choses qui pourraient paraître extraordinairement triviales. Je sens bien que ça intéresse le romancier que vous pouvez être, Philippe Besson, la romancière que vous êtes. Mais en quoi est-ce que l'historien trouve matière à la lecture de ces choses extraordinairement banales que sont, allez, on va dire, les vœux de protection du parent sur l'enfant et tout ce qu'il projette.
C'est pas banal parce que mes parents avaient constitué sur moi un journal d'enfance où il y avait mes menus faits et gestes, mes maladies, mes vaccins, il y a même un encadré bilan langage et motricité, enfin des choses qui sont un peu bon.
Bref, mais en tout cas, tout est reproduit dans le livre, hein, je vous rassure, il y a absolument tout sous forme de graphiques, de photos de Playmobil, absolument tout.
Et en tout cas, je pense que ça montrait l'investissement familial de mes parents sur moi-même. Ça renvoie à notre histoire familiale, parce qu'après tout, j'étais aussi la petite graine qui repousse sur cette terre brûlée par la Shoah. Et donc, j'étais un petit peu comme ça le point focal, le centre d'espérance de mes parents, mais aussi de toute ma famille et de tous nos proches. Et donc, il y a une espèce à la fois beaucoup d'espoir qui s'est porté sur moi et sur mes épaules, et en même temps, un poids qui fait que au moment où je suis né, ma tombe était déjà ouverte. Parce que je veux dire par là qu'il y avait une espèce d'exigence de réussite qui pèse sur moi et qui continue d'être douloureuse. Mais en même temps, ça explique ce journal d'enfance où mes parents notaient comme ça, de manière un petit peu à la fois pédagogique et frénétique, les menus progrès de ce microscopique anonyme que j'étais. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la comparaison un petit peu sous forme de boutade avec le journal d'enfance du roi Louis XIII au début du XVIIe siècle.
En toute simplicité,
non, mais justement,
Yvan Jablonka d'un côté, en 1973, et puis le roi Louis XIII.
Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur cette comparaison qui tient de la boutade. C'est aussi pour montrer que on peut faire comme ça des investissements sur les enfants sous la forme d'archives. Et moi, en tant qu'historien, ce qui m'a passionné, c'est l'archive que mes parents ont produite sur moi Et d'une certaine manière, on dirait que j'étais prédestiné à devenir historien, puisque le premier livre qui m'a environné, c'est une archive sur moi-même.
C'est le portrait d'une génération que vous faites, une génération qui a grandi, écrivez-vous, avec Récréa 2. Et souvenez-vous, sur Récréa 2, à Récréa 2, on découvrait notamment un dessin animé, celui-ci. Ben voilà, Goldorak. Si on m'avait dit qu'un jour je parlerais de Goldorak dans une émission littéraire, je ne vous aurais pas cru. Mais lisez Yvan Jablonka, car vous nous racontez pourquoi et comment Goldorak a façonné une partie de votre garçonnité. Pas forcément celle que l'on croit, avec l'éloge des super-héros qui avaient des fulgurons-points et des altéro-H.
Alors, il y avait bien sûr cet aspect-là. Goldorak proposait aux garçons de mon âge, à l'heure de la récré, à l'heure du chocolat et du pain, un stage viril dans lequel apprendre les valeurs de la puissance et des armes. Mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil dans Goldorak et son pilote Actarus. Actarus est un orphelin. Sa planète a été détruite et c'est un homme vulnérable qu'on voit parfois assis au bord d'une plage, regarder le ciel orphelin de sa propre planète. Et évidemment, moi, ça me renvoyait à mon histoire familiale puisque mon père est orphelin. Et on voyait dans Goldorak des scènes d'Holocauste avec des incendies, des ponts qui s'écroulent, des foules en panique. Moi, ça me touchait beaucoup, peut-être que ça m'effrayait. Et c'était une manière aussi pour moi de conjurer l'angoisse de ma famille, je le voyais à l'écran à une heure de grande écoute. Et puis Goldorak, ce robot surpuissant, permettait en quelque sorte de surmonter ce qu'il faut bien appeler un traumatisme.
On va en parler de ce traumatisme parce qu'il rejoint ce livre, celui que vous aviez écrit il y a une douzaine d'années, L'histoire des arrière-parents que je n'ai pas eu. Votre père est orphelin, il est orphelin de guerre, grand-parents, arrière-grands-parents déportés et assassinés à Auschwitz. Finalement, dans ce dessin animé, qui semble être, qui est aussi d'ailleurs, la glorification de la virilité, vous avez retenu ces moments de nostalgie qui ouvrent sur la réparation, ou en tout cas la possibilité de parler de ce traumatisme. Est-ce que vous en parliez de cette disparition, de cet holocauste avec vos parents quand vous regardiez, j'imagine à 8, 9, 10 ans, Goldorak à la télé, et que vous voyiez un héros qui avait des failles, fragile?
Je pense que quand je regardais Goldorak, j'avais envie que Goldorak vainque la horde des Golgoths, et c'est tout ce que j'avais envie de voir. Mais je crois que c'est des choses qu'un enfant sent, parce qu'il n'y a pas de secret de famille, il n'y a que des vérités de famille. Et je crois que quand un enfant sent une atmosphère, eh bien, cette atmosphère rentre en lui ou en elle et le façonne. Et par exemple, mon père, il y a des pères qui ne parlent pas, il y a des pères taiseux. Moi, mon père parlait. Mon père est quelqu'un de très drôle, chaleureux. Et mon père parlait, il parlait de son enfance dans les orphelinats juifs communistes des années 50. C'est tout ce qu'il disait. Mais quand un père vous dit « j'étais dans un orphelinat juif communiste des années 50 », assez rapidement, vous comprenez le pourquoi du comment. Et donc, sans poser de questions, je sentais bien qu'il y avait une absence.
La parole des parents, du père, de la mère, qu'on soit aussi le garçon, la fille, l'homme, la femme qu'on devient. Il parlait, votre père, Philippe Besson ?
Il ne parlait pas du tout. C'était un être totalement taciturne, c'était un taiseux, c'était un homme très réservé, très pudique. Alors, c'était peut-être aussi un effet de génération, mais en tout cas, non. Moi, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, jamais. Ça ne lui a jamais même échappé, même dans les moments, même sur la fin. Et en retour, je ne lui ai jamais dit non plus, alors que je n'ai absolument aucun doute de cet amour réciproque. C'est-à-dire, je sais qu'il m'aimait et que je l'aimais. Mais il ne me l'a jamais dit. Il y avait...
Et vous, Yvan Jablonka, est-ce qu'il vous l'a dit ?
Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Mais par son attitude, sa chaleur, sa tendresse, oui, je le sentais. Par exemple, avec mon père, on jouait à la bagarre. Ça, je crois que c'est un truc très garçon, papa.
Pardonnez-moi, mais dans le genre construction de la masculinité sur la base de la violence et de la domination, ça se pose là.
Ben oui, mais moi, j'ajoute qu'il se trouve que les mamans, elles portent les enfants dans leur ventre et les papas, non. Eh bien, moi, avec mon père, on se battait, on se tapait, il faisait semblant de me découper comme un poulet. Bon, je ne vais pas trop vous raconter tout ça parce que c'est des choses intimes et puis surtout, on se marrait bien. Mais je crois que le contact physique qui fait qu'un petit enfant se trouve dans les mains de quelqu'un de plus grand qui joue à un petit peu le violenter, mais bien sûr tout ça se fait avec tendresse, je crois que c'est important dans la construction du masculin et là, de manière plutôt positive. En tout cas, j'ai des bons souvenirs.
Non, moi, il y avait vraiment, oui, c'est ça, ce silence sur les sentiments, cette distance corporelle, physique. Moi, je suis convaincu que je viens de ce silence-là et que je suis convaincu que j'écris pour faire un sort à ce silence. Si j'écris autant sur les sentiments, c'est sans doute parce qu'ils étaient à ce point-là tus, comprimés, censurés dans l'enfance et dans l'adolescence. Et encore une fois, je ne lui en veux pas, je ne fais pas son procès. J'ai adoré cet homme, je l'ai admiré. Mais c'est vrai qu'il était obligé d'en passer parfois par la maladresse, par des trucs un peu bourrus, par... voilà.
Et là, Slimani, on parlera tout à l'heure de votre père, qui est un des plus beaux passages de votre livre. Est-ce que, pour rebondir sur ce que vient de dire Yvan Jablonka, vous avez un souvenir précis de la façon, peut-être, dont vous jouiez avec lui, dont il vous disait des choses? Est-ce qu'il vous prenait dans ses bras? Vous jouiez peut-être pas à la bagarre avec lui?
Non, je ne jouais pas avec lui. Mon père était issu d'une éducation et puis d'un pays qui fait que pour lui, c'est avoir trois filles, jouer avec ses filles, c'était un peu compliqué. Il nous associait aux poupées, aux Barbies, donc il pensait qu'il ne pouvait pas trop jouer avec nous. Mais en revanche, j'ai partagé énormément de choses avec lui, et en particulier les livres, puisque mon père n'a pas travaillé pendant pratiquement toute mon adolescence. Donc mon père était toujours assis au même endroit et il avait des livres qui étaient posés par terre, qui arrivaient jusque-là. Et pour lui parler, j'ai très vite compris qu'il fallait lire, que si je prenais un livre et que je m'asseyais à côté de lui, il ne dirait rien, et puis à la fin, je pourrais lui parler du livre, et puis il me répondrait. Et donc, nos premiers dialogues ont été des dialogues autour des livres, et on s'est dit beaucoup de choses. Mais je crois que mon père m'a dit qu'il m'aimait. Je n'ai pas le souvenir précis, mais je suis pratiquement sûre qu'il m'a dit qu'il m'aimait. En tout cas, je me suis sentie très, très aimée par lui.
Dans les années 80, dans Récréa 2, il y avait Goldorak, et puis il y avait...
Eh oui.
Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils.
Yvan Jablonka, Goldorak, très bien. Goldorak plus Candy, dans un livre d'historien très sérieux, ça appelle une explication. Pourquoi Candy? Qu'est-ce que... Il y a une sociologie de Candy, une histoire peut-être de la virilité et de la masculinité qui passe par Candy?
D'abord, je crois qu'un historien fait feu de tout bois et doit s'intéresser à tout. En l'occurrence, Goldorak Candy, c'est des loisirs de masse et ça fait partie de l'histoire, de mon histoire, de notre historicité.
La pop culture, c'est un matériau pour l'historien.
Et bien entendu. Et par exemple, dans Laetitia, j'analysais le compte Facebook de Laetitia et c'est une source à part entière. Pour revenir à Candy, alors Candy, c'est une fillette orpheline, je le dis par parenthèse, c'est important. C'est une fillette qui est à la fois glamour, belle, avec toutes ses robes virevoltantes, mais c'est aussi un garçon manqué. Vilaine expression que tout le monde comprend, parce qu'elle est à la fois, elle grimpe aux arbres, elle a pas peur de se battre, elle déchire ses robes, elle est un peu sale. Donc il y avait aussi là une espèce de fluidité de genre qui était passionnante. Et ce générique qui me bouleverse, et merci de m'offrir cette Madeleine de Proust, mais ce générique ne rend pas complètement hommage à Candy, qui n'est pas que kitsch et gnangnan. Candy est en fait un personnage assez complexe qui est capable donc de se battre, d'exprimer sa volonté, d'ourdir des stratégies. Et vous avez raison de dire que pour ma génération, celle qui est des années 80-90, la génération Récréa 2 a grandi entre ces deux cultures d'enfance que sont Goldorak et Candy. Ça nous a façonné, c'est notre Iliade et notre Odyssée de l'ère industrielle.
À ce point-là?
Je crois.
L'Iliade et l'Odyssée, c'est Goldorak et Candy.
De l'ère industrielle.
Ouais. Ça fait rigoler Leïla Slimani.
Moi, je n'avais pas Récréa 2. Je sais qu'il y avait Goldorak en arabe qui passait sur la chaîne marocaine, mais moi, je n'ai jamais regardé ces dessins animés, donc c'est un monde tout à fait inconnu pour moi.
Mais c'est extrêmement sérieux, et la façon dont vous les décryptez, dont vous les analysez dans votre livre, rend justice effectivement à toute une culture qui, aujourd'hui, on le voit, est la culture dominante. C'est la culture qui est en place également dans toutes les strates de la société. Vous étiez plutôt Candy ou plutôt Goldorak, vous, Philippe Besson?
Les deux, mais pour des raisons qui étaient que j'adorais Actarus et que je me reconnaissais dans Candy et ses élans amoureux. C'est absolument tragique. Ça touche un peu après moi, quand même, parce qu'on a 6 ans d'écart, mais enfin, j'étais très retardataire. Non, je suis d'accord, ça raconte une époque et ça raconte aussi, oui, un modèle masculin ou féminin. Mais en même temps, moi, j'étais très envieux d'Ivan, parce que quand j'ai lu son livre, parce que justement, il pouvait, lui, d'une certaine manière, affirmer ou assumer quelque chose que moi, je ne pouvais pas affirmer et assumer. Le milieu
dans lequel... Chose
mais, quelle chose, là, précisément. Par exemple, quand il dit je ne veux pas être un mâle, ou je ne sais pas quoi, la phrase que...
Je ne suis pas un mâle.
Moi, par exemple, c'est une phrase que je ne pouvais pas prononcer, qu'il m'était interdit de prononcer. Parce que déjà, j'étais soupçonné, évidemment, d'homosexualité. Là, les coups auraient redoublé. Parce que c'était un lycée de province, au milieu des années 80, dans une toute petite ville de 4000 habitants. Et là, il y avait une non-acceptation de la différence que je portais, qui était quand même très, très forte.
Vous l'avez raconté dans votre cycle autobiographique, il y avait Arrête tes mensonges,
absolument.
Arrête avec tes mensonges, un certain Paul Darigrand.
Absolument.
À quel âge se fait chez vous la découverte de l'homosexualité?
Très jeune.
Mais je pose la question de la découverte, parce que Ivan Jablonka nous dit que c'est le moment où il y a une fluidité de genre qui n'est pas sexuelle. Mais vous,
moi, je comprends.
Ça se passe à quel âge, à quel moment?
Dès l'âge de 11 ans, puisque je suis attiré par un petit camarade et que je vais vers ce garçon-là qui est plus âgé que moi, et je vais avoir une vraie relation avec lui. Et à ce moment-là, j'en suis pas du tout catastrophé. C'est-à-dire, je suis enchanté parce que, d'un coup, moi, à qui on a demandé, parce que le papa instituteur, d'être un élève modèle comme vous, bien peigné, avec ses lunettes, qui a des bons résultats, je me dis enfin une dissemblance, enfin une différence, enfin ça va déconner. Donc, je suis très content de...
Donc, c'est une libération, c'est une émancipation.
Sauf qu'au moment où je comprends cette libération, je comprends dans le même mouvement qu'il va falloir la taire. C'est là la vraie différence. C'est que moi, je l'assume pour moi-même. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais je comprends tout de suite qu'il ne faut pas que je le dise, parce que sinon, j'affronterai la violence des autres garçons.
Mais vous êtes comme Ivan.
Oui,
parce qu'en réalité, il y a une chose qui est saisissante dans le livre, et c'est ça aussi qui en fait, je trouve, un patch-turner, comme on dit en excellent français de l'Académie, c'est que malgré ses privilèges, que vous avez, parce que même si vous avez des doutes, vous êtes quand même, pardonnez-moi, l'homme de presque 50 ans, par ailleurs blanc, par ailleurs bien éduqué, par ailleurs solvable. Donc vous représentez aussi quelqu'un qui possède un certain nombre de, on va dire quoi, d'avantages ?
De privilèges.
De privilèges, très bien. D'où vient cette angoisse qui sourd à travers tout le livre et qui fait sa puissance à ce livre? C'est-à-dire que ça pourrait simplement être le récit d'un garçon qui a tout eu, d'un garçon qui vient d'une bonne bourgeoisie, qui est l'héritier de la Shoah, mais qui sait la dépasser. Et vous racontez « Je ne suis qu'angoisse ». D'où vient-elle?
Je crois que le seul domaine où j'excelle, c'est l'anxiété. Je le dis avec tristesse, parce que ce n'est pas facile à porter. Je pense que c'est lié aux exigences qui ont pesé sur mes épaules, exigences d'héritier de la Shoah ou exigences aussi liées à l'investissement familial qui reposait sur mes épaules. Alors, d'une certaine manière, j'ai relevé le défi et je crois avoir, épousé le mandat qu'on m'avait fixé. Et en même temps, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût psychologique, ça a un coût social, familial. Et c'est quelque chose que... C'est quelque chose dont j'ai du mal à me remettre. D'une certaine manière, c'est une aliénation. C'est-à-dire que je suis prof de fac, je fais des bouquins, ça marche, mais ça renvoie aussi à une aliénation masculine qui consiste à dire « réussis, sois le meilleur, tiens bon ». Et un chanteur qui me touchait beaucoup, Jean-Jacques Goldman, je crois que c'est quelque chose qu'on partage, une passion qu'on partage, absolument, Philippe Besson et moi, c'est que Jean-Jacques Goldman exprime exactement cette dualité. Il y a une chanson où il dit « être le premier », et en même temps, il y a la chanson où il dit « comme toi », qui est la chanson d'une petite fille assassinée à l'âge de 8 ans.
Et vous vous souvenez que chez Goldman, être le premier, c'était une phase B. Hein.
Exactement.
Ce pas essentiel.
Mais je crois que
la phase A.
Je crois que c'est exactement la phase A et la phase B d'un même 45 tours. C'est-à-dire que quand votre famille a été détruite ou a failli être détruite et que vos parents sont des rescapés, eh bien, vous n'avez plus qu'une obligation, c'est de réussir pour, en quelque sorte, aller à l'encontre du processus d'anéantissement. Donc, vous avez une face positive, mais vous avez aussi une face de souffrance. Et Jean-Jacques Goldman l'exprime très bien. C'est pour ça que quand il dit « être le premier », c'est aussi une manière de dire « nous le faisons pour eux, nous le faisons pour tous nos disparus ».
Alors, comme pour Goldorak et pour Candy, hein, on retrouve dans le livre d'Yvan Jablonka un passage passionnant sur l'opposition entre deux morales, la morale de Renaud et la morale de Jean-Jacques Goldman. Ça semble totalement sorti du chapeau et pas du tout, c'est effectivement absolument saisissant. On pourrait y passer pas mal de temps. Il y a une autre opposition que vous faites, hein, pour l'histoire de la construction d'un garçon, c'est celle des grands modèles. Vous savez que les grands modèles, ça passe par le cinéma. Alors, je ne sais pas, quand vous aviez 12, 15 ans, peut-être que vous rêviez, messieurs, de ressembler à... Voilà. Harrison Ford, en costume d'Indiana Jones, notamment. Yvan Jablonka, évidemment, alors vous le dites avec pas mal d'humour, vous ne pouviez pas prétendre, à cet âge-là, à ressembler à Indy. Vous étiez plutôt de ce côté-ci. Hippolyte, Hippo, dans le premier film d'Éric Rochant, Un monde sans pitié. 1989, c'est le film d'une génération, ça aussi, Un monde sans pitié.
C'est un film qui m'a bouleversé. C'est le film, une histoire d'amour entre Hippo, qui est un peu un glandeur céleste, qui ne sait pas bien quoi faire de sa vie, et Nathalie, une bosseuse juive ashkénaze de Normal Sup, un petit peu comme je le suis devenu. Et c'est une histoire d'amour complètement impossible, mais qui m'a bouleversé parce que chez Hippo, il y avait ce modèle de masculinité qui allait devenir le mien, poésie, détresse, autodérision.
Fragilité.
Fragilité. Et de sa fragilité, il tirait sa force.
Comment est-ce qu'un homme de presque 50 ans, qui nous regarde, qui vous écoute, peut rester lui-même tout en faisant comme vous, c'est-à-dire en déconstruisant, pour le comprendre, le modèle de domination qu'il a appris?
Je crois que c'est important en tant qu'homme de se dire d'où vient mon pouvoir? D'où vient mon pouvoir? D'où vient le fait que j'ai une capacité de domination, notamment sur les femmes, et ça, c'est important de se poser cette question. Puis une deuxième question que doivent se poser les hommes, je crois, c'est pourquoi profondément je ne veux pas l'égalité? Tout le monde dit l'égalité, etc. Mais je crois qu'au fond, beaucoup d'hommes ne veulent pas l'égalité, ni dans la sphère publique, ni dans la rue, ni dans les transports, ni dans le couple. Et ça, je crois qu'il y a vraiment une introspection très profonde à mener en tant qu'homme pour savoir pourquoi c'est si difficile d'accéder à une société féministe, c'est-à-dire démocratique.
Vous auriez aimé être une femme?
J'aurais bien aimé tenter l'expérience.
Philippe Besson, aimeriez-vous être une femme?
Non, je suis très heureux en étant un homme, je n'ai pas de souci avec ça, mais je compense, si je puis dire, en l'étant dans les livres. C'est-à-dire, j'ai été 4 fois une femme dans un livre, et j'adore cette mécanique-là, j'adore essayer d'investir le corps, la psyché, l'esprit d'une femme, son mode de fonctionnement. Je ne sais pas si j'y arrive, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui m'est nécessaire et naturel. J'aime beaucoup ça, oui. Et il n'y a que l'écriture qui vous le permet. C'est-à-dire que j'avais aucune chance d'être une mère de famille, à part en écrivant le dernier enfant. Vous voyez, ça ne m'arrivera pas d'être mère de famille, sauf là. Et donc, j'aime bien ce que l'écriture vous permet, que la vie ne vous a pas donné.
Leïla Slimani, aimeriez-vous être un homme?
Non. Je suis très bien comme femme. Je trouve qu'être une femme est une aventure extraordinaire. D'abord, j'ai été enceinte 2 fois. Et vivre cette aventure, ça a été un des moments physiques dans ma vie les plus merveilleux, où je me suis sentie très, très, très bien enceinte. Donc, pour rien au monde, je sacrifierais cette expérience. Et puis, je trouve que je vis en plus à un moment où être une femme est un combat et une aventure absolument merveilleuse. Donc, je n'aimerais pas être un homme.
Un garçon comme vous et moi, Yvan Jablonka, c'est aux éditions du Seuil. Avant d'ouvrir les livres de Philippe Besson et de Leïla Slimani, un petit détour par notre concours de lecture à voix haute, si on lisait à voix haute. Alors, les classes inscrites maintenant doivent nous envoyer leurs vidéos, celles de leur champion, celui qui les représentera, avant le lundi 8 février. Allez, 23h, 8 février, sur le site de l'UMNI, l'adresse est en train de s'inscrire au bas de votre écran. Dans le cadre de cette opération, vous le savez, les écrivains vont très régulièrement à la rencontre des élèves. Leïla Slimani, absolument, l'année dernière, hein, vous étiez partie au Val d'Argenteuil.
Oui, et c'était très très touchant, parce que je dois vous dire que quand je suis arrivée dans cette classe, ils pensaient que je n'allais pas venir. Et les élèves de cette classe m'ont regardée et m'ont dit, vous savez madame, dans cette classe, on n'est que des Noirs et des Arabes, et on ne pensait pas qu'il y avait un vrai écrivain qui allait venir nous voir. Et ça a été vraiment un moment pour moi, honnêtement, absolument bouleversant, de voir l'absence de confiance en eux qu'avaient ces enfants, et en même temps la façon dont ils ont choisi des textes magnifiques, tous très violents, subversifs, des textes extrêmement forts. Enfin, ça a été une très belle expérience pour nous.
Et bien moi, ce que je voudrais, c'est que cette émission balaye justement cette absence de confiance. Et pour ça, on a besoin de vous tous, les écrivains, de vous qui nous regardez, et puis surtout de l'envie des plus jeunes, puisque ce concours s'adresse à tous les jeunes de la 6e à la terminale. Cette semaine, c'est Marc Duguin qui a rendu visite à la première G8 du lycée Victor et Hélène Bache, qui se situe à Rennes. Et ce sont les élèves qui, comme d'habitude, ont filmé eux-mêmes cette rencontre.
La lecture à voix haute, c'est pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler en public sans avoir trop le trac, en défendant ses idées. Et je pense que l'exercice de la lecture, c'est un très très bon exercice d'entraînement et d'intégration de ce que vous lisez. Voilà. Donc, en avant.
J'habite dans une ferme. On élève des poules, et à chaque fois qu'on amène des nouvelles poules, ça recommence. Ça ne dure pas plus de 5 minutes, mais elles se battent pour déterminer l'ordre hiérarchique. Elles se sautent sur le dos, se poussent, s'arrachent des plumes avec leur bec. Elles ne s'arrêtent que quand la hiérarchie est clairement établie.
Petite critique, c'est peut-être que tu vas un peu vite. Parce que c'est votre génération, on a le même problème avec tous les acteurs qui ont entre 20 et 30 ans. Ils savonnent. On appelle ça savonner, c'est-à-dire c'est à toute vitesse.
Okay. Juste un petit exercice pour travailler justement cette vitesse-là. Voilà. Avec une main sur le ventre, voilà. Tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas lire sans précipiter ta lecture, mais en essayant de voir jusqu'où tu peux aller. Et je voudrais qu'on entende mourir ta voix quand tu es vraiment allé chercher la respiration abdominale qui est là.
Toutes les filles de toutes les écoles de la ville le savent. Assis chacune dans leur classe, à se jauger, à se renifler, à trouver leur place dans la hiérarchie. Moi, je suis au milieu, une place confortable. Scarlett est en bas, c'est tout. Il boit son thé sans quitter des yeux cette place qu'il ne verra plus. Il essaye de tout enregistrer. Oui, je sais ce qu'il pense et je fais comme lui. Immobile, je laisse les bruits et les odeurs m'envahir. Nous ne reviendrons plus jamais.
Juste des petits trucs comme à la fin de la phrase, tu t'arrêtes et puis après tu mets le dernier mot. Tu peux le lier. Hein. Ben, vous êtes forte. Hein. Allez, reine.
Il a raison, Marc Duguin. Ils sont forts. Vous allez voir, ils vont vous surprendre. Finale au mois de juin sur France 5. Philippe Besson, le dernier enfant qui vient de paraître chez Julliard, est votre 20e roman, disais-je tout à l'heure. C'est surtout l'histoire d'une dislocation, d'un anéantissement, d'un moment extrêmement bref où l'existence d'une femme vacille. L'existence d'une femme qui a choisi d'être avant tout une mère. Elle s'appelle Anne-Marie et elle voit son fils, Théo, 18 ans, quitter la maison familiale. Sauf que elle ne parvient pas à s'en remettre. C'est le dernier des trois enfants, les deux autres un peu plus âgés sont déjà partis, et elle sait, elle sent hein, que rien, plus rien ne sera désormais comme avant. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Eh bien voici le sujet de ce roman qui dissèque remarquablement les états d'âme d'une femme qui ressemble à beaucoup de mères. Pourquoi, Philippe Besson, ce départ est-il vécu comme un drame?
C'est une chose surprenante parce que c'est l'événement le plus prévisible qui soit, c'est le plus attendu. On sait qu'à un moment, les enfants vont finir par partir. Mais à ce moment-là, je pense que les mères, enfin en tout cas les mères comme Anne-Marie, il ne faut pas généraliser, mais enfin les mères comme Anne-Marie, elles sont traversées par toute une gamme de sentiments. Le premier, le plus évident, c'est la perte. C'est l'idée, il était à moi et il s'en va, je le perds, il m'abandonne ou je l'abandonne. Et donc, il y a la tristesse qui va avec, le chagrin qui va avec. Il y a aussi évidemment l'idée de l'inutilité. C'est-à-dire, j'avais un rôle, j'avais une fonction, et puis maintenant, ben, ce rôle et cette fonction, c'est terminé. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Il y avait aussi l'idée que j'étais là pour le protéger, puisque comme je suis sa mère, je le protège. Et là, je l'envoie dans la grande photo du monde. En plus, il a 18 ans, il est un peu maladroit. Donc, qu'est-ce qui va lui arriver? La vie est accidentelle, le monde est hostile, et donc je vais avoir peur tout le temps. Et ça ramène précisément, je pense, à la peur immémoriale des mères.
C'est-à-dire, la peur ancestrale des mères, écrivez-vous.
Oui. Oui, je pense que ça va avec la maternité. Enfin, Leïla pourrait le dire, je pense, mieux que moi, mais ce n'est pas un truc livré en kit, à part. C'est-à-dire que je pense que la peur va avec la maternité. Absolument. La culpabilité aussi. Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, Anne-Marie, Elle pourrait avoir le sentiment du devoir accompli. Elle a fait son boulot. Son enfant est capable de s'élancer dans la vie, de s'envoler.
C'est non, exactement ce que lui dit, d'ailleurs, pour la rassurer. Oui. Sa copine, sa voisine, qui lui dit, enfin voilà, attends, on peut voir les choses de manière extraordinairement positive. C'est-à-dire que tu as fait ton travail. Oui. Voilà, il est capable, à 18 ans, de vivre seul, de s'enfermer dans un petit 20 mètres carrés, dans une ville universitaire, et de vivre sans sa mère. Donc, la mère a réussi.
Oui.
Pour quelle raison? Alors que cet argument se tient. Beaucoup de mères, encore une fois, ne généralisons pas, mais enfin, vous avez touché un point universel.
Oui, je pense.
Ah oui.
Je pense en tout cas que beaucoup ressentent ça, oui, absolument.
Pour quelles raisons ressentent-elles la culpabilité, la trahison, la perte, la peur, l'absence de protection, alors même qu'elles pourraient ressentir la fierté d'avoir réussi?
Et bien parce qu'encore une fois, elles ont le sentiment que personne d'autre qu'elles, peut-être, ne pourra faire mieux, qu'elles ont une connaissance intime, évidemment, de leur garçon ou de leur fille, et que personne ne sera mieux le protéger. Donc il y a vraiment cette frayeur, cette peur qui est ancrée et dont elles ne se débarrasseront absolument jamais. Et puis il y a, oui, je pense, un instinct de propriété. Enfin, cet enfant émane d'elle.
Le vide aussi. Le vide, voilà. C'est-à-dire le sentiment d'un coup que quelque chose est vide. La maison se vide. Absolument. Quand elle rentre dans la maison, absolument, elle dit, mais en fait, je suis rentrée plein de fois dans cette maison sans qu'il y avait personne. Mais d'un coup, c'est vide. Et je crois que ça, c'est une angoisse que peuvent avoir beaucoup, beaucoup de femmes. Mais moi, c'est une angoisse qui m'a toujours habitée. C'est quelle place aussi on donne à son rôle de mère dans sa vie. Parce qu'on sait très très bien que c'est un amour qui sera finalement déçu, on sera abandonné.
Déçu ?
Enfin, déçu dans la mesure dans laquelle nous, on voudrait le vivre. Nous, nos enfants, on voudrait presque les dévorer. Parfois, on sait qu'ils vont nous quitter. C'est comme si vous tombiez amoureux de quelqu'un dont vous savez que dans 18 ans, précisément, il vous quittera. Et donc, c'est un amour dans lequel il faut se...
Ça arrive rarement dans une relation sentimentale, tandis que là, vous êtes prévenu.
On est prévenu, donc il faut aussi se protéger. Il y a des mères qui se protègent plus ou moins. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu me protéger, j'ai toujours voulu avoir une vie à moi en me disant, comme ça, je souffrirai moins une fois qu'ils ne seront pas là. Et je crois que c'est très difficile.
Vous êtes en train de me dire que vous voulez être romancière. Vous êtes romancière pour ne pas souffrir du moment
Pour moi, souffrir de ce qui m'arrive dans la vie, parce que dans la vie, il pourra m'arriver n'importe quoi. Je pourrais l'écrire, je pourrais en faire la matière d'un livre.
Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Parce que vous savez ce que c'est qu'un livre de Philippe Besson? C'est ce qu'on voit sur la couverture. C'est une photo floue. Voilà. Tous les livres de Philippe Besson, c'est des photos floues. Si on peut aller faire un gros plan, Adrien, le réalisateur de l'émission, sur la photo de couverture qui dit une chose pour une fois. Souvent, les couvertures disent rien. Là, ça dit tout, Besson, toute son œuvre. Prenez le flou et puis essayez de restituer l'image. Grattez, voyez ce qu'il y a. Remettez un petit peu de précision dans ce qui se dit, dans ce qui se passe entre la mère et son fils. C'est ça, en fait, votre travail, vous. Ça commence par là, par une forme de peur, la peur de l'accident. Une mère protectrice, oui, racontez-vous, dans le cas de votre personnage Anne-Marie. Les mères, écrivez-vous, page 83, n'oublient jamais quand elles ont cru un jour perdre leur enfant.
Mais oui, parce que je pense...
Est-ce que c'est ça, en fait, la racine de la peur, de la protection aussi?
En tout cas, pour elles, c'en est une. Et je pense que, enfin, il n'y a pas d'événement plus tragique pour un parent, mère ou père, là, pour le coup, que de perdre son enfant. Et donc, quand cette possibilité, cette hypothèse s'est fait jour et a existé dans la vie d'Anne-Marie et Patrick, parce qu'il a eu un grave accident, leur fils Théo, et qu'il a été emmené à l'hôpital, et que pendant quelques heures, on ne sait pas s'il va survivre ou pas. Donc là, elle est plongée dans une espèce d'abîme, d'horreur. Et vous n'en remontez jamais tout à fait. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, cette frayeur-là, cette idée que vous l'avez pu le perdre un jour, ça vous quittera pas. Moi, je me souviens...
Le un jour devient... peut-être demain à nouveau.
Oui, mais c'est ça. Moi, je vais raconter une anecdote. Quand j'étais enfant, j'avais 9-10 ans, je prenais un bain et je me suis endormi dans mon bain. Et ma mère est entrée dans la salle de bain au moment où j'étais sous l'eau. Et donc, elle est entrée, la vision qu'elle a eue, c'est celle de son fils noyé dans la baignoire. Donc, elle a empoigné mon corps pour me sortir de l'eau en espérant encore que j'allais être vivant. Et je l'étais. Et l'idée, c'est que pendant toutes les années qui ont suivi, jusqu'au moment où j'ai quitté la maison, jusqu'à l'âge de 18 ans, à chaque fois que je prenais un bain, elle toquait à la porte de la salle de bain pour vérifier que j'étais vivant. Donc cette peur, elle est ancrée, elle ne s'en débarrasse jamais. Et donc effectivement, quand elle perd, là, son fils qui part, ce n'est pas une mort, mais c'est comme une petite mort, parce que quand même, il y a quelque chose qui est l'irrévocable, oui,
vous
l'irrémédiable.
Dites, vous dites
qu'il ne va pas revenir.
Vous dites que ce n'est pas une mort, Philippe Besson, mais je voudrais qu'on s'arrête sur l'expression de la langue française.
Oui.
Mon fils est parti.
Mon fils est parti.
Dites-moi, mon fils est parti. Ça fait
il est parti trop tôt.
Il est parti trop tôt.
Il est parti trop tôt.
C'est atroce.
Oui. Enfin, ça veut dire il est mort.
On dit pour un défunt.
Oui, c'est ça.
On dit,
voilà, parti trop
tôt. Mais oui, à l'occasion d'un décès.
Mais précisément parce que il y a l'idée que ce départ est irréversible. Enfin, il y a des enfants qui reviennent, mais enfin, c'est pas la majorité du genre. Donc, quand il s'en va, c'est terminé. L'histoire est terminée. Et là où je rejoins Leïla, ce que j'essaie aussi de dire dans le livre, c'est que, du coup, elle affronte le vide. Mais le vide, c'est pas une chose théorique. C'est pas un truc sublime. C'est très concret. Donc, elle rentre dans la maison et il y a du silence. Il n'y a plus de désordre.
Et maintenant, que vais-je faire ?
Et que vais-je faire ? Et elle rentre dans la chambre, il n'y a plus de posters. Elle ouvre les placards, il n'y a plus d'affaires dans le placard. Et surtout, comme effectivement, elle a mis tous ses œufs dans le même panier, si je puis dire, Anne-Marie, c'est-à-dire qu'elle a d'abord été mère et elle a oublié d'être femme et oublié d'être épouse.
Ça aussi, peut-être c'est oublié la construction d'être d'une certaine féminité.
Mais oui, évidemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle dit « moi, ce qui m'importe », pour des raisons qu'on peut comprendre, parce qu'en plus elle est orpheline, bon, elle a décidé de tout mettre là, au moment où l'enfant s'en va, eh ben, elle ne sait plus comment être femme, comment être épouse et comment être amante. Parce qu'elle n'a plus les codes, elle a plus les règles, elle ne sait plus comment ça fonctionne.
À quoi je vais servir maintenant, dit-elle, page 164. Ce sentiment d'inutilité que pointait aussi Leïla tout à l'heure pose aussi une vraie question. Alors, elle peut peut-être vous sembler provocante, mais à la lecture de votre livre, je me la suis posée. Quelle est la limite, allez, on va dire la lisière, entre l'égoïsme et l'amour maternel ?
Parfois, ça se rejoint. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée qu'elle l'aime parce que ça lui fait un bien fou, parce que ça la remplit, parce que ça... Voilà, elle l'aime pour elle. Et en même temps, elle a aussi cette espèce de fierté de dire « j'en ai fait quelqu'un de bien », donc voilà. Mais le vrai amour maternel, il est à la fois égoïste et totalement désintéressé. C'est-à-dire que c'est quand même préparer ses enfants à la liberté, accepter de les perdre à un moment. Mais tant qu'on les a, et tant qu'on les a avec soi... On peut se dire, j'y trouve une forme d'épanouissement.
Le mot égoïsme est un mot très très important parce qu'on parlait de masculinité avant. Pour comprendre la condition des femmes, mot égoïsme est très important. Quand vous lisez Simone de Beauvoir, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « toute ma vie, je me suis posé une question, c'était comment être égoïste ? C'est-à-dire où est-ce que je mets la limite entre servir les autres, être là pour les autres, puisque nous, on nous élève avec l'idée qu'on peut avoir pour seul but dans la vie de rendre les autres heureux, c'est-à-dire de n'avoir aucun objectif à part entière ou pour soi. L'égoïsme pour une femme, c'est extrêmement dur à assumer. Moi, j'ai vu dans le regard des gens, mais tellement de jugements à mon égard, les fois où j'ai pu clamer une forme d'égoïsme, où j'ai pu laisser mes enfants pour faire des choses, même pas liées au travail, mais parce qu'elles me faisaient plaisir. Donc l'égoïsme, pour moi, c'est le salut pour les femmes. Et c'est très, très important de dire aux femmes qu'elles ont le droit d'être égoïstes.
Mais vous avez choisi, Philippe Besson, de raconter l'histoire d'une femme qui n'est pas celle
n'est
que
pas
vient
égoïste,
de définir et d'écrire, pardon, Leïla Slimani. Pour quelle raison avez-vous eu envie de raconter le destin de ces femmes-là ? Peut-être, d'ailleurs, j'ai lu ce livre comme étant presque un petit frère, un cousin éloigné du livre d'Ivan Jablonka sur la construction des parents.
Parce que j'ai... Il faut dire aussi que l'une des explications, c'est que c'est plongé dans une condition sociale particulière. C'est-à-dire que c'est des gens qui appartiennent à la classe moyenne inférieure, qui est la mienne, hein, qui est ma classe d'origine. Moi, j'ai un père instituteur, une mère secrétaire, grand-père cordonnier, voilà, des oncles et des tantes qui sont ouvriers ou paysans. Donc, je viens de là. On a manqué de rien, mais on faisait attention à tout. Bon, voilà. Et ils ont construit une espèce de vie très simple, avec des gestes quotidiens, concrets, ordinaires, qui les rassurent, des rituels, des routines, il y a quelque chose comme ça. Donc elle a construit son propre cocon, son propre monde avec ses enfants. Tout tourne autour de ça. Donc elle peut pas imaginer autre chose que ça. L'une des figures que j'avais en tête, c'est bizarre parce que c'est pas une figure réelle, mais une figure inventée, c'était le personnage de Francesca sur la route de Madison. Mmh. Vous savez, cette femme qui est dévolue,
bien sûr,
à son mari et à ses enfants. Et puis tout d'un coup, le mari et les enfants s'en vont parce qu'il y a ce truc avec les
vaches. Mais là, le vide amène l'amour,
et le photographe arrive et tout d'un coup, c'est une révélation. C'est-à-dire que vous êtes renvoyé à donc il y a quelque chose de possible autrement. Ouais. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Mais juste avant, vous avez juste construit un monde clos qui vous rassure, qui vous convient. C'est-à-dire que c'est une vie très respectable, moi, je trouve, et presque admirable, la vie simple et ordinaire qu'ils ont construite. Mais simplement, à un moment, le gouffre s'ouvre sous vos pieds quand vous comprenez que c'est juste ça.
Ivan Jablonka.
Moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi dans le livre de Philippe Besson, c'est le sentiment de la proximité familiale. Parce que là, on parle d'une dislocation, quand les enfants partent. Mais il y a aussi des moments de grande proximité, presque de promiscuité, mais enchantée, enchanteresse. C'est le moment du camping.
Oui.
C'est le moment du camping.
Je me doutais que vous auriez relevé ça.
Ça m'a beaucoup touché parce que moi, j'ai passé mes vacances en camping-car. Oui. Et là, c'est le contraire de la dislocation.
Oui, absolument.
C'est le moment de l'unité. C'est le moment de l'amour où on est ensemble, où on passe des bons moments ensemble. Et je crois que ça fait un bon contrepoint au moment où, justement, les enfants partent.
Oui, absolument.
Oui, alors attendez. Sauf que, dans le roman de Besson, On a beau passer les vacances ensemble, on a beau être ensemble pour un déjeuner d'adieu, on ne parle pas, on ne dit rien. Vous disiez tout à l'heure que les silences vous avaient façonné, que vous, vous êtes l'enfant du silence. Oui. Cette femme, cette mère, Anne-Marie, qui a dévoué sa vie à son fils, ne lui a jamais dit.
Non.
Quoi que ce soit.
Non, elle n'arrive pas.
Vous dites à un moment, ça aurait sonné bizarre. Pourquoi ? C'est bizarre de dire « je t'aime ».
Je pense que pour elle, oui, c'est comme une inconvenance, c'est comme une impudeur excessive. Je pense qu'elle se dit « j'y ai pas droit ». C'est quelque chose comme ça. Enfin, je pense qu'elle est débordée par ça. Elle pense qu'il faut tenir un peu... Alors, elle trouve des subterfuges. Mmh. Mais elle admet, par exemple, toutes les prises de distance de son fils. Il y a son fils qui dit, à partir de 14 ans, « écoute, je vais pas aller sur le canapé avec toi, ça va bien, faut arrêter ». Elle le voit bien, elle le laisse faire. Mais en même temps, elle est contente quand elle le retrouve dans la camionnette de déménagement. Ils sont obligés, ils sont les uns sur les autres. Et elle retouche son fils et elle est heureuse de ça. C'est-à-dire qu'elle va chercher des petits moments, des petits bonheurs, comme si elle n'avait pas droit à, et comme si elle ne s'autorisait pas quelque chose. C'est quelqu'un qui est à l'économie, Anne-Marie, sur plein de domaines, mais en même temps, dont la vie est une vie bizarrement harmonieuse.
Qu'est-ce qui joue également dans ce couple? Parce qu'il faut en parler de ce couple. Il n'y a pas que l'enfant, il y a le couple, il y a Patrick.
Ce qui joue, c'est la suite.
Parce que quand même, vous nous le faites, ce couple, j'allais dire, Besson avant de dire Jablonka. elle est à la cuisine, lui à la tondeuse.
Oui.
Bonjour à la reproduction, hein, Philippe Besson.
Oui, ah oui. Oui, ils sont là, pour le coup, chacun dans un rôle très préétabli. Ça, il n'y a aucun doute.
Répartition volontaire des rôles?
Oui, je pense. Enfin... Je ne sais même pas si c'est volontaire. Je pense qu'en fait, chez eux, ça s'est fait naturellement. Ils ne se sont pas posé la question.
Donc, reproduction de la domination.
C'est ça, absolument. C'était comme ça avant, et ils le font comme ça maintenant, parce qu'ils l'ont vu faire avant, et ça fonctionnait. Alors, ils continuent une histoire.
Vous écrivez page 100. Hein. Elle est persuadée qu'il s'agit d'une question de génération. Ouais. Il y a 30 ans, les hommes étaient un peu bourrus, un peu brusques, et surtout, ils étaient des hommes. La domination était de son côté. On n'appelait d'ailleurs pas ça la domination. On rejoint ce qu'écrit Yvan Jablonka sur le genre. Ouais. À un moment, vous dites. En fait, à l'époque, on n'appelait pas ça le genre, on ne se posait même pas la question du genre.
Ce mot n'existait pas. C'est un mot qui n'était pas dans notre vocabulaire, ce qui fait que s'interroger sur les identités de genre n'avait aucun sens. On ne parlait même pas d'homosexualité dans les cours de récré, sauf sous forme d'injures. Et donc, en fait, il y a tout un questionnement qui n'existait pas. Et 40 ans plus tard, ce questionnement qui est devenu majeur dans les sciences sociales et dans toute la société, nous permet rétrospectivement de comprendre nos itinéraires de garçons et de filles.
Il y a un mot qui manque dans votre livre. Mm-hmm. Vous savez où je l'ai trouvé ?
Non ? Chez Leïla.
Slimani.
Oui.
C'est le mot cellule.
Ah oui, absolument.
La cellule familiale, écrit page 76, Leïla Slimani. Mais la cellule familiale, c'est aussi la prison.
La prison, bien sûr.
Comment expliquez-vous qu'Anne-Marie, votre personnage, cette mère exemplaire, hein, jusqu'à présent on a bien compris, qui a du mal à se déprendre, ne comprend pas cela? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle fait voler en éclats la cellule familiale à force de vouloir en faire une cellule de prison pour son fils, qui lui a peut-être besoin de s'affranchir, de quitter le cocon, de quitter le nid.
Ah, lui, effectivement, il rêve d'autre chose. C'est-à-dire qu'elle a construit un monde, d'ailleurs, à son image, et où le fils ne rencontre que des gens qui sont des gens de l'entourage de sa mère, c'est-à-dire son oncle, sa tante, les voisins, etc. Et elle a peur, tout d'un coup, que son fils aille découvrir un monde différent. C'est ça aussi le truc, c'est que le fils est porté vers une réalité qui n'est pas la sienne. Mais oui, elle a construit quelque chose de fermé, mais elle ne le considère pas du tout comme une cellule, non, pas du tout.
Mais c'est ce que disait Virginia Woolf, une femme mariée, c'est un flamant rose dans la cage d'un canari. C'est ça. Voilà, c'est que les femmes connaissent cette idée de réclusion de cellule familiale.
Mais c'est un endroit qui protège aussi, c'est ça.
Oui, enfin, absolument. Voilà. Et après, on a peur d'en sortir.
Voilà, on a peur d'en sortir.
On est bien dedans, on a fait son nid, et puis voilà.
On peut parler tout de même, sans rien dire non plus,
voilà.
Bah oui, de ce qui est très important, me semble-t-il, dans le livre. Tout à l'heure, Yvan Jablonka parlait de la libération de la parole avec MeToo. Et vous disiez à quel point c'était important pour l'écriture de votre livre. Vous, Philippe Besson, vous travaillez autour d'autre chose qui est ce fameux silence. Mais avant que la parole soit libérée, il faudrait peut-être être capable de savoir ce que c'est une parole. Et il me semble que ce livre, c'est aussi l'apprentissage, peut-être au moment où le fils s'en va, de la parole dans un coup.
D'être capable de se parler, c'est ce qui se passe notamment au restaurant. C'est-à-dire que quand ils sont au restaurant, elle convoque ses souvenirs et elle est capable de dire des choses. C'est d'ailleurs qu'elle révèle à son fils, on va dire, le secret de ses origines avec une phrase voilà, un peu triviale, mais c'est assez... Et elle est capable enfin de dire des choses qu'elle n'avait jamais dites à ce moment-là.
C'est très important, ça. Et là, je pense qu'on ne révèle pas grand-chose en disant cela de votre livre.
Elle dit qu'il est un accident. Elle dit cette phrase, t'étais pas prévu au programme.
Voilà.
C'est une phrase... Mais elle se rattrape tout de suite en disant... En en disant « Oui, mais c'est pas parce qu'on les a pas voulu qu'on les aime pas de la même manière. »
Est-ce que c'est la phrase d'une mère qui ne sait pas parler à son fils? Est-ce que c'est la phrase d'une mère qui a été conditionnée par le silence de son couple? Est-ce que c'est une maladresse? Comment est-ce que vous l'interprétez?
C'est tout ça. Je pense que c'est tout ça. C'est effectivement de la maladresse dans la formulation, parce que c'est le vocabulaire qui est à sa disposition, mais c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais osé dire, et puis, parce qu'elle se dit « Si j'avais dit, peut-être qu'il l'aurait mal vécu, qu'il serait dit « Ah bon, bah donc je suis une espèce de pièce rapportée, on voulait pas vraiment de moi, etc. » Moi, quand j'ai appris que j'étais un accident, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais j'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça formidable. Et j'ai été aimé merveilleusement par mes parents. Donc, mais c'est vrai que c'est bizarre d'apprendre qu'on n'a pas été voulu. Donc,
c'est surtout bizarre de l'apprendre comme ça dans un restaurant le jour de vos 18 ans, oui, presque, ou quand vous partez de la maison.
Vous parliez de la libération de la parole, c'est ça. C'est que je pense que peut-être, enfin, elle est capable de dire deux ou trois choses qu'elle n'avait pas eu le courage ou l'esprit de dire avant. C'est qu'au moment du départ, au moment de cette dislocation, de cet affranchissement, elle est enfin capable, peut-être, de dire quelque chose. De la même manière, quand elle l'étreint, ce geste-là, il est peut-être beaucoup plus important que n'importe quelle déclamation ou déclaration.
Le dernier enfant, le nouveau roman de Philippe Besson, c'est aux éditions Julliard. Avant de plonger dans les secrets de l'écriture, les coulisses d'un musée et puis le parfum d'un pays perdu avec Leïla Slimani, je vous propose une halte en librairie. Nous partons ce soir dans le 11e arrondissement de Paris à la rencontre de Manuel Huriot. Il tient la librairie La Friche, j'adore le nom, La Friche. Portrait signé Inès de la Motte-Saint-Pierre. Regardez ce qu'on y trouve à La Friche.
Je ne vois pas du tout le libraire comme étant un guide ou comme étant détenteur du bon goût. On est des lecteurs comme les autres. On a à la fois des choix très forts, qui sont à la fois des choix politiques, des choix éditoriaux, des choix de lecture, et à la fois la volonté de s'effacer un petit peu et de ne pas être le libraire omniprésent qui guiderait tout le monde vers les bons choix. Ce que j'aime dans la littérature, c'est qu'un livre nous déstabilise, nous percute, nous donne même des claques. Donc je vous conseille de prendre un livre qui vous bouscule, vous allez voir, ça fait du bien. Alors, mon écrivain fétiche, c'est Richard Brautigan, qui est un écrivain complètement inclassable. Donc, c'est un auteur qui a joué beaucoup avec la parodie, avec des faux romans de genre. Il est parfois inégal, et c'est ça que j'aime chez lui aussi, c'est qu'il tente des choses absolument incroyables. Donc, c'est une sorte de mauvais garçon de la littérature. Il ne se prive de rien du tout, il est prêt à tout. Mon roman graphique, je pense à Love in Vain, de Dupont et Mezzo, l'illustrateur. L'histoire de Robert Johnson, qui était un bluesman absolument génial, un guitariste prodige. Et c'est l'évocation de sa vie, et c'est absolument magnifique graphiquement. C'est comme si chaque page était une sérigraphie, c'est un noir et blanc absolument incroyable. C'est un très très bel objet. Alors, le livre de l'exil pour moi serait Le cri des oiseaux fous, de Dany Laferrière. La dernière nuit du personnage et de l'auteur à Haïti. Donc c'est hyper émouvant, parce qu'évidemment, lui sait qu'il va partir, qu'il va quitter tout. Et les gens qui croisent, en fait, ne sont pas au courant. J'ai jamais rien lu d'aussi beau sur le départ et la préparation de l'exil. Ma machine à remonter le temps, c'est Miette, de Pierre Bergoglio. Miette, en fait, parle d'un monde qui est en voie de disparition, c'est-à-dire le monde rural au début du XXe siècle. On entend souvent dire qu'il n'y a plus de grands écrivains en France, plus de stylistes, que le style a disparu, etc. Et je trouve que Pierre Bergoglio fait partie des immenses auteurs français, et ça serait dommage de passer à côté de lui, alors qu'il est toujours vivant.
Mais non, il n'y a pas plus de grands écrivains et de grands stylistes en France. La preuve, toutes les semaines avec cette émission. Voici l'histoire d'une écrivaine qui n'aime pas sortir de chez elle, qui cherche la solitude plutôt que la distraction, et puis qui, un jour, accepte une commande, passer une nuit au musée, seule, confinée, et raconter cette expérience. L'écrivaine, c'est vous, Leïla Slimani. Le musée, c'est la Punta della Dogana, ce monument mythique de Venise qui a été transformé en musée d'art contemporain. Le parfum des fleurs la nuit sort chez Stock dans quelques jours, et c'est le récit de cette expérience. Alors, c'est un récit absolument passionnant, parce que il y a question pratiquement de tout sauf de l'art, de l'enfance, de l'écriture, du processus d'écriture, des souvenirs, des parfums d'un monde disparu, de la peur dont on a déjà beaucoup parlé, qui est le point commun entre vos trois livres, mais aussi de la réparation que l'art peut-être apporter. Je ne dis pas ça parce que je n'aime pas l'art contemporain. Je dis ça parce que je trouve que vous êtes quand même culotté. On vous demande d'écrire sur l'art contemporain, vous écrivez sur autre chose. Mais en même temps, c'est ça la littérature. Pourquoi avez-vous accepté, Leïla Slimani, d'écrire ce texte qui est donc une commande d'un éditeur, en l'occurrence d'une éditrice, alors que vous êtes, écrivez-vous, et je vous cite, « intimement convaincu que l'écriture doit répondre à une nécessité, à une obsession intime, à une urgence intérieure, et pas à une commande. »
Pour être tout à fait sincère, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai dit oui. J'ai dit oui, ça nous arrive parfois de dire oui. Quelqu'un vous propose quelque chose, vous n'osez pas dire non, et donc vous dites oui. Et en réalité, dès le moment où j'ai accepté, je suis entrée chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as dit oui? Tu as commis une énorme erreur et tu t'es engagée dans ce projet alors que tu as un roman à écrire, alors qu'effectivement, je pense que toute écriture doit venir de l'intérieur. Et puis...
Mais vous êtes comme ça, vous, finalement. Vous qui semblez si décidé, si déterminé, Leïla Slimani. Il y a des rivalités en vous qui vous font parfois accepter des choses que vous devriez refuser?
Oui, mais en même temps, ce que j'allais vous dire, c'est que je devais avoir quand même l'intime conviction que quelque chose allait naître de ça. J'avais envie d'embrasser cette aventure que j'avais pas choisie, et puis d'accepter une part de hasard et de surprise, et puis surtout, j'ai accepté parce que j'avais envie d'être enfermée. Cette idée d'être enfermée me plaisait beaucoup, parce que j'étais dans un moment où je travaillais, où j'avais beaucoup de sollicitations, où j'étais embêtée tout le temps, et je me suis dit, mais pour une fois, être enfermée quelque part, où personne ne pourra rentrer, où moi je pourrais pas sortir, où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a rien, où je suis totalement seule. C'était la réalisation d'un de mes plus grands fantasmes, donc c'est pour ça que j'ai accepté.
Enfermé, ça ne veut pas dire confiné.
Non, c'est pas du tout la même chose. Non, non, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que j'aurais pu sortir si je voulais, que le dehors ne m'était pas hostile. Je ne courais pas de risque à être dehors. C'était un enfermement totalement volontaire.
Alors ça commence bien. Page 45, vous confessez que quand un journaliste vous demande, Leïla Slimani, pourquoi vous avez choisi tel sujet de roman, vous mentez. Voilà. Elle invente quelque chose de plausible, mais c'est quand même un mensonge.
Ah, mais je mens souvent aux journalistes. Non, je rigole.
Ben, ça va être pratique.
Non, mais c'est vrai, c'est très difficile de répondre à un journaliste qui vous dit pourquoi est-ce que vous avez écrit là-dessus. Vous êtes bien obligé de trouver une réponse. En réalité, cette réponse, vous ne l'avez pas vraiment. Vous ne savez pas pourquoi un jour vous êtes habité par tel sujet et pourquoi vous décidez pendant des mois et des mois de vivre avec ces personnages. Pourquoi vous leur avez fait dire ça, vous les avez mis dans telle situation. Il y a une part dans l'écriture de mystère, d'opacité, même à nous-mêmes.
Dans ce livre, il y a des passages que je trouve fulgurants, formidables, sur l'écriture, sur le processus, Leïla Slimani, sur les failles qui vous habitent et qui vous traversent et qui, parfois, ne cadrent pas, et tant mieux, avec l'image que peut renvoyer une jeune femme qui a, pour son deuxième roman, remporté le prix Goncourt, que l'on entend et que l'on voit beaucoup dans les médias, qui par ailleurs se dit féministe, militante, qui veut l'être et concilier sa vie de femme, sa vie d'écrivaine et sa vie de militante. Ces failles, vous en parlez en disant que vous croyez évidemment à l'inconfort, à l'inconfort constant à un moment, la peur des autres et l'attraction pour les autres. L'austérité et la mondanité, l'ombre et la lumière, l'humilité et l'ambition. Où êtes-vous exactement entre ces deux pôles qui, on le sent bien, vous déchirent?
Mais je n'en ai aucune idée. Je crois que ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est que je n'ai aucune idée de qui je suis. Et que c'est sans doute pour ça que je suis devenue écrivain, parce que je ne crois pas qu'on puisse jamais dire sur quelqu'un « il était cela ». Et je ne crois pas que je puisse dire sur moi « je suis ceci ». Quand vous écrivez des romans, quand vous construisez des personnages, il se met à exister, ce personnage, il se met à vivre au moment où vous touchez à ses contradictions. Moi, ce que je cherche toujours dans un personnage, c'est cet endroit à partir duquel se nouent des contradictions et cet endroit à partir duquel tout peut s'écrouler en réalité. Et ben, vous vous rendez compte que c'est toujours à partir de là que le personnage il devient vivant. Et moi, je pourrais vous dire des choses sur moi et vous dire un quart d'heure après exactement l'inverse. Je suis pleine de contradictions et c'est ce que dit ce poème magnifique de Walt Whitman. Je suis pleine de contradictions, je suis vaste,
je contiens
une multitude. Ouais. Voilà, oui, je me contredis. Et évidemment, on se contredit constamment et je crois que c'est aussi ça le rôle de la littérature, c'est de se pencher avec une forme de considération et d'humilité sur chaque âme pour dire... Elle est insaisissable. Chaque être est une énigme. Je déteste l'idée qu'on puisse dire « Ah, lui, je le connais par cœur, il est comme ça ou il est comme ça ». Personne ne connaît personne par cœur et d'ailleurs, personne ne comprend jamais personne. On vit finalement, au bout du compte, dans une toujours très grande solitude.
D'où vient la peur? Ce qui m'a frappé, c'est que c'est un livre sur l'écriture, c'est un livre sur la solitude retrouvée, c'est aussi un livre sur la peur. Peut-être prendre l'expression de Philippe Besson, une peur ancestrale. D'où vient-elle et que signifie-t-elle?
Je le décris, enfin j'en parle un peu dans le livre. Elle vient d'abord, je pense, de mon éducation et de ma mère, sans doute, qui était une femme extrêmement inquiète pour ses enfants. Nous, on était trois filles dans un pays patriarcale où être une fille dans l'espace public est quelque chose de compliqué. Donc ma mère avait toujours peur pour nous, qu'on se fasse mal, qu'on soit attaqué, qu'on prenne une mauvaise décision. Et puis je crois que, c'est ce que dit Virginie Despentes merveilleusement, nous sommes du sexe de la peur, elle dit. Être une femme, c'est avoir peur. D'ailleurs, quand vous êtes adolescente, la première fois qu'on commence à vous parler de sexualité, qu'on vous parle de votre corps, qu'on vous parle de ce que vous allez vivre, on vous en parle toujours sous l'angle du danger.
Belle métaphore, vous dites la peur de la coquille qui s'écraserait, comme un escargot écrasé par sa coquille.
Oui, c'est-à-dire qu'à la fois j'avais peur du dehors et en même temps rien ne me faisait plus peur que le dedans, c'est-à-dire l'idée d'être une femme d'intérieur, l'idée d'être dans la cellule familiale, l'idée de correspondre à ce modèle qu'on me dépeignait de la fille bien, de l'ange du foyer, comme dit Virginia Woolf, qui est toujours là pour les autres, pour ses enfants, parce que je sentais que dans cette coquille, qu'on vous dépeint comme rassurante, en fait, on allait m'étouffer et que j'allais mourir asphyxiée dans cette coquille, d'où aussi ce déchirement constant entre le dedans et le dehors. Et c'est étrange en plus d'en parler aujourd'hui avec ce qu'on a vécu avec le confinement, mais cette idée que sortir de soi, c'est aussi s'en sortir. Moi, j'avais envie de m'en sortir. Je voulais aller dehors parce que je comprenais que s'émanciper, c'était aussi s'arracher à quelque chose. Donc ça se faisait forcément au prix d'une forme de solitude.
Je le disais tout à l'heure, la peur est le point commun de vos trois livres très différents dans leurs approches, mais qui ont une colonne vertébrale. Voilà, étude de la peur, étude et analyse de la peur. Vous en parlez beaucoup, vous, Yvan Jablonka, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous retrouvez dans cette définition de la peur que Leïla met aussi, semble-t-il, vous m'arrêtez si je me trompe, sur le compte aussi d'une peur de sexe, de genre, c'est-à-dire absolument. C'est la peur des femmes. Mais ça, cette angoisse qui est la vôtre, c'est pas seulement l'angoisse de l'héritier de la Shoah. Est-ce que vous vous retrouvez dans la peur telle que l'a définie Leïla Slimani?
Je pense qu'elle a absolument raison de dire qu'il y a une peur native chez les femmes en raison des agressions qu'elles peuvent subir. Je n'ai rien d'autre à ajouter et je la comprends parfaitement. J'ai été bouleversé par ailleurs en lisant son livre, en voyant l'association entre la liberté et la discipline. Discipline que Leïla Slimani elle-même s'impose. La liberté, elle est partout. Elle est dans Venise, elle est dans la Giudecca, elle est dans la pointe de la douane. Je crois que c'est ça ce lieu merveilleux que Leïla Slimani décrit. Liberté absolue de cette ville-œuvre qu'est Venise. Et en même temps, Leïla Slimani a le courage de dire qu'elle s'impose discipline, claustration, enfermement pour écrire. Et je crois qu'à un moment, vous dites que vous avez terminé Chanson douce dans une maison de Normandie, je crois, comme si, pour arriver à cette liberté ultime qu'est l'écriture, il fallait s'enfermer. Je trouve ça magnifique.
Mais pour moi, il y a un lien très très fort entre la liberté et le renoncement. Ça peut paraître très paradoxal, mais je pense qu'être...
Ça, le lien entre la liberté et le renoncement.
Être capable aussi de ne pas tout vouloir, de renoncer parfois à un certain nombre de choses et d'avoir un objectif. Et en réalité, vous savez, vouloir tout, on a l'impression, en fait, on se sent beaucoup plus aliéné. La liberté, elle vient aussi du fait de dire, moi, voilà, il y a un certain nombre de choses que je sais que je n'aurai pas, que je sais que je ne ferai pas. Mais il y en a une pour laquelle je vais tout mettre là-dedans. Et c'est pas du tout une contradiction être capable. D'ailleurs, dans tous mes livres, les personnages n'arrivent pas à accéder à la liberté parce qu'ils n'arrivent jamais à renoncer. Ce sont toujours des personnages doubles qui veulent une chose et qui veulent en même temps son contraire, qui ont cette addiction au sexe et en même temps envie d'être une bonne mère et une bourgeoise bien installée dans son couple, une femme qui est déstabilisée par la précarité mais qui a envie d'être la meilleure nounou du monde. Et je crois que paradoxalement, être libre, c'est aussi parfois être capable de renoncer.
Vous écrivez que quand vous êtes en phase d'écriture, le monde extérieur n'existe pas. Oui. Et pourtant, ça ne vous coupe pas du monde. Comment expliquez-vous cet autre paradoxe de l'écriture ?
Là, je rentre de 15 jours de retraite d'écriture. Donc je suis rentrée hier, donc je peux vous en parler vraiment de manière... C'est très frais dans mon esprit. Au contraire, vous êtes dans une présence-absence qui est très, très particulière et vous avez une capacité, une disponibilité au monde qui est beaucoup plus grande que dans le quotidien. Dans le quotidien de la vie, vous êtes toujours en train de penser à plein de choses, vous êtes extrêmement pressé, vous êtes dérangé par le téléphone, par les visiteurs, par plein de choses. Alors que là, d'un coup, vous vous entrez complètement en vous-même et la façon, les autres existent en nous. On n'a pas besoin de les avoir en face de soi. Un écrivain, pour moi, n'est pas un entomologiste. Il n'est pas là au-dessus d'un bocal à regarder. En réalité, on fait revivre des gens qui sont morts, on fait revivre des gens qui n'ont jamais existé. Et c'est ça, là encore, je suis des multitudes parce que le monde existe en nous. Et c'est ça qui est merveilleux dans ces moments de très, très grande solitude. On se sent d'un coup habité par le monde. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on est capable de parler de choses qu'on n'a jamais vécues, de sentiments qu'on n'a jamais connus, dans un pays où on n'est jamais allé, et que pour autant, si on y arrive, eh ben ça pourra être juste. Et quelqu'un qui le lira dira « Mon Dieu, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti ». C'est pour ça que je dis la littérature, c'est le territoire de la présomption, parce qu'on passe son temps à présumer que quelque chose qu'on ne connaît pas a été comme ça, et la magie se fait que ça se réalise.
Ce livre sur l'art est en réalité une masterclass d'écriture, hein, Leïla Slimani. Et alors, je l'ai lu en reprenant le Jablonka, parce que je me dis, mais finalement, ces deux livres se parlent, ils se murmurent des choses. Par exemple, page 193 de votre livre, Yvan Jablonka, je lis ceci sur l'écrivain. Certains auteurs allèguent qu'ils écrivent par besoin existentiel. On vous sent taquin, hein. Nécessité vitale, je vous sens moqueur là même. Amour des lettres, n'y croyez pas une seconde. Je les crois volontiers, mais j'aime quand les sociologues leur rétorquent prestige social, accès à la sphère publique, autorité de l'écrivain, aura du prophète. Vous déconstruisez le mythe de l'écrivain totalement centré sur son projet d'écriture. Vous le voyez comme un mondain ou quelqu'un dont l'ambition est plus forte que l'œuvre ?
Certainement pas. Je pense que chaque écrivain, chaque écrivaine répond à une forme de génie au sens de nécessité intérieure, et je le respecte totalement. Mais pour ce qui me concerne, moi j'écris pour aimer et pour être aimé.
Vous écrivez, j'écris pour que Chloé revienne. Chloé, c'est votre amour de CM2.
Oui, alors d'abord je dis que voilà, j'aime ma femme et Chloé, oui. C'est... je vis avec ma femme et c'est elle que j'aime. Chloé.
Vous avez une très belle expression.
Chloé, c'est la fille de mon enfance. Voilà. Chloé, c'est la fille de mon enfance. il ne faut pas confondre la fille de mon enfance et la femme de ma vie. La femme de ma vie, c'est la femme avec qui je vis, la mère de nos trois enfants. Bref.
Toujours est-il que vous écrivez. J'écris pour que Chloé revienne.
Voilà. En tout cas, Chloé, cet amour un peu mythique de CE2, effectivement, a un petit peu habité comme ça mon enfance. Mais pour revenir à l'écriture, et c'est ce que Leïla Slimani disait avec force, on a une nécessité vitale d'écrire. Et pour ce qui me concerne, c'est, je crois, ne pas être seul, c'est-à-dire aimer et être aimé, et aussi ne pas couler. C'est pour ça que je fais la comparaison avec la natation. J'aime beaucoup nager. Autrefois, j'aimais beaucoup jouer au foot. Maintenant, je nage. Et j'écris comme je nage. Ou je nage comme j'écris, c'est-à-dire...
Mais vous êtes genre papillon, crawler,
Je fais du crawl. Je fais du crawl parce que j'aime bien... Le crawl, c'est une natation qui va vite, qui permet de traverser l'élément. Et l'écriture, pour moi, c'est ça. C'est une écriture acérée qui traverse son élément, qui empêche de couler et qui essaye d'être un peu plus loin qu'on était une demi-seconde auparavant.
Mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il écrit. C'est-à-dire, moi, je le dis tout à la fin du livre, je ne crois pas du tout aux gens qui disent « si je n'écris pas, je meurs ». Parce que ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que tous les gens qui ont été empêchés, et d'ailleurs toutes les femmes qui ont été empêchées d'écrire, elles ne sont pas mortes, donc elles n'étaient pas en fait des vrais écrivains. Je trouve que ça n'a pas de sens de dire « si je n'avais pas écrit, je serais mort ». En revanche, et c'est ce que je dis tout à la fin, moi, je n'aurais pas été heureuse. Je sais très bien que si je n'avais pas écrit, j'aurais été une femme beaucoup moins heureuse et j'aurais sans doute eu une forme d'amertume ou quelque chose en tout cas en moi qui aurait pourri, qui n'aurait pas pu s'exprimer ou s'épanouir. Mais je ne crois pas à cette idée que si on n'écrit pas, on meurt. Non.
On va parler du musée, parce qu'il y a quand même quelques pages sur l'art et sur le musée.
J'ai quand même
mais
on fait sent... un peu le job. Oui.
Mais non, mais c'est-à-dire que le job, vous l'avez fait en parlant d'autre chose.
Oui, c'est ça.
C'est ça qui est, formidable. C'est quand un livre vous pousse à parler de vous-même. Mais pour quelle raison avez-vous choisi ce musée-là, la Punta della Dogana, qui se trouve donc à Venise, l'ancienne douane de terre, en face, à côté de la douane de mer, qui est un musée d'art contemporain, mais alors que vous écrivez que finalement l'art contemporain n'est pas tellement votre truc.
Non, mais le lieu, en revanche, me semblait symboliquement très, très fort par rapport à mon histoire, à ma vie. D'abord, le fait que ce soit une douane, moi, ça m'a... L'idée de rentrer dans un lieu qui, autrefois, était un lieu où on délivrait des laissez-passer, on regardait des papiers, on disait, toi, tu peux passer, toi, tu ne peux pas passer. Pour quelqu'un comme moi, qui vient du Maroc, qui est immigré, qui vient d'un monde aussi, qui est un monde où la question de l'immigration, du départ, de la douane, donc, est une question complexe, douloureuse, très dure et qui m'a toujours habité. Et puis Venise, c'est vraiment un lieu très très particulier parce que c'est pour moi une sorte de confluence de l'Orient et de l'Occident. Et la pointe de la douane, c'est l'endroit où arrivent toutes les marchandises d'Orient. On les dépose là dans des entrepôts. Les gens viennent, regardent, enfin les douaniers, et puis ça arrive en Occident. Et l'inverse aussi. Donc c'est vraiment le lieu où le monde arabe et le monde byzantin ont rencontré le monde chrétien. Et donc en ça, moi qui me suis toujours sentie complètement perdue entre ces deux mondes-là, entre ces deux univers, je trouvais que c'était très fort.
Et puis tu dis aussi, c'est une ville sans terre.
C'est ça.
De ce point de vue-là, ça renvoie.
C'est une ville sans terre, c'est une ville sans terroir, donc qui ne vit finalement que par l'activité humaine. Et moi-même qui étais sans terroir, voilà. Je me disais, comment on peut être un écrivain sans terroir? Comment c'est possible?
Dans ce musée, vous retrouvez d'ailleurs quelques-unes de vos obsessions de romancière, d'écrivain. Je pense au corps, qui est le sujet de tous vos romans, en réalité, y compris de la fresque autobiographique dont vous avez signé le premier volume. Je vous rappelle qu'on attend avec impatience le deuxième, Leïla. Donc vous reviendrez bientôt, j'espère, pour en parler. Il y a une œuvre en particulier qui vous marque, c'est celle-ci, Le Rideau, de Félix González Torres. Pour quelle raison?
Ce rideau, d'abord, quand on est dans cette salle qui est immense, immédiatement vous évoque une coulée de sang. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a évoqué. Il faut quand même imaginer, j'étais seule la nuit dans ce musée où d'un coup, les lumières, en plus, sont moins fortes. Et tout de suite, m'est revenu le personnage d'Adèle, le personnage de mon premier roman dans le Jardin de l'Or. Et j'ai cru la voir, elle. J'ai eu l'impression que c'était son sang à elle. Et puis, j'ai un rapport avec le corps qui est un rapport très douloureux. Je crois que c'est peut-être Milan Kundera qui a le mieux exprimé la façon dont je vis le corps comme un poids, comme parfois une honte. Comme il dit, la monotonie des activités corporelles me chagrine, me brise. Même la sexualité, pour moi, a été une déception. Moi, je viens de ces années 90 où le moindre film que vous regardiez, il y avait au milieu une scène d'amour hyper glamour, hyper sensuelle. Et on fait croire aux petites filles que si ça ne se passe pas très mal, c'est-à-dire si ça n'est pas violent, ça sera merveilleux. Et quand j'ai découvert ça a été une immense déception parce que c'était très trivial en fait. C'était juste deux corps humains. Donc le corps pour moi a été longtemps un espace de déception et de terreur.
Si vous deviez, Philippe Besson et Yvan Jablonka, être vous aussi enfermés une nuit au musée, formidable collection, il y a beaucoup d'écrivains qui viennent très souvent ici, je pense à Nkibi Bilal, Léonore de Recondo récemment. Dans quel musée choisiriez-vous de passer une nuit absolument seul? J'espère pas en vous disant non, mais je vais m'enfuir à la première occasion. Il y a des moments très drôles chez Leïla Slimani quand vous allez fumer aux toilettes en cachette.
Ah ouais,
alors
ça,
que
c'est
vous
trop
êtes
dur.
Tout seul.
Une nuit sans fumer, je pouvais pas.
Yvan Jablonka.
Moi, j'aimerais bien être enfermé dans le musée Louisiana, près de Copenhague, au Danemark.
Ouais.
J'ai un souvenir magnifique. On était avec ma femme, nos trois filles. Et donc, c'est un musée formidable parce qu'il est plein de nature, de verdure. Il est ouvert sur la mer, en face de la Suède, entre la mer du Nord et la mer Baltique. Et donc, c'est un musée qui respire avec des mobiles de caldaire, du pop art. Et donc, j'aimerais bien être enfermé dans ce musée. Mais en fait, en vous répondant ça, c'est une pirouette. Parce que on ne peut pas être enfermé dans un tel musée, précisément parce qu'il est ouvert sur la nature.
Philippe Besson.
Moi, je choisirais le Whitney Museum à New York, à peu près pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que c'est quand même aussi un musée ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des terrasses, vous pouvez sortir, vous pouvez entendre les
le
bruits de la ville.
Le nouveau Whitney Museum,
oui, absolument,
qui a été refait, repensé, qui est une architecture de verre absolument sublime.
Sublime. Et donc, vous avez un extérieur, vous avez un dehors. Vous êtes sur les terrasses, vous pouvez entendre la ville, les bruits de la ville, les mouvements de la ville. Vous voyez le fleuve, donc ça, c'est extraordinaire. Et donc, parce que je pense que j'aurais peur, justement, de l'enfermement et de la claustration du truc, la boîte être noir, ça me ferait peur. Et donc le Whitney pour ça, et puis après parce qu'il se trouve que j'ai une vraie passion pour la peinture américaine contemporaine, donc je pourrais passer mon temps devant des Hopper, devant des plein de choses comme ça, Jasper Jones ou d'autres, et donc ça me plairait, je crois, le Whitney.
Pendant longtemps, hein, Philippe Besson, les couvertures de vos livres prenaient
c'était des Hopper,
détails de Hopper.
Mais parce que c'est le
qu'est-ce
peintre...
qui vous touche chez ce peintre?
Parce que c'est le peintre de la mélancolie américaine, c'est le peintre d'une espèce de nostalgie qui ne dit pas son nom, c'est le peintre des sentiments retenus, c'est des gens qui sont au bord de faire quelque chose, on ne sait pas s'ils vont le faire ou pas, et on ne sait pas si c'est un drame ou une bénédiction. C'est aussi le peintre de l'American Way of Life, c'est-à-dire ça raconte l'Amérique, des vies ordinaires. Voilà. C'est aussi un peintre féministe, beaucoup de visages et de personnages de femmes, qui sont d'ailleurs beaucoup inspirés par sa femme, Joséphine. Et voilà, et c'est le peintre de l'attente, du presque rien, qui dit quelque chose. C'est-à-dire que, je crois que c'est Lynch qui disait, David Lynch, quand on voit une peinture de Hopper, on se dit que sans doute quelque chose de terrible vient d'arriver ou va arriver. Oui. Et donc, c'est exactement ça. Et là, c'est cette femme qui attend à Cape Cod. On se dit qu'elle attend et que c'est sans doute pas une bonne nouvelle qui va arriver.
Dans un musée, il y a des fantômes. C'est plein de fantômes, un musée. Voilà la raison pour laquelle le livre de Leïla Slimani est passionnant, car on parle très peu d'art contemporain et beaucoup des fantômes. Le fantôme qui arrive, il arrive avec un parfum un peu étrange que je ne connaissais pas, le galant de nuit.
Oui, le galant de
Qu'est-ce que c'est que le galant de nuit?
C'est un arbre qui est très très courant dans le monde méditerranéen, au Maghreb en particulier, qui s'appelle musk al-arabi en arabe. Et donc, c'est une sorte de. Ça a une odeur qui est proche de celle du jasmin, mais c'est un arbre qui n'exude son odeur que la nuit. Donc, à partir du moment où il y a de l'obscurité, cet arbre se met à sentir. C'est une odeur. Très très forte, que mon père adorait, puisque nous avions un galant de nuit dans notre jardin qui était juste à côté de la porte d'entrée. Donc mon père, voilà, on ouvrait souvent
Dites-moi, avec vous, il en a vu des vertes et des pas mûres, le galant de nuit?
Le galant de nuit, pas mon père, parce que mon père n'a rien vu. Mais le galant de nuit, oui, parce que voilà, je sortais de la maison, ma mère savait que j'allais faire la fête, parce que moi j'avais deux objectifs dans la vie. Je voulais penser, je voulais écrire et je voulais faire la fête. La fête, c'était extrêmement important pour moi. Si je n'avais pas choisi l'écriture totalement, j'aurais choisi la fête totalement. Je voulais sortir, je voulais aller dehors, je voulais m'amuser, je voulais danser, je voulais voir ce qui se passait dans les rues de
Mais vous parlez de choix, on peut faire les deux ou pas?
Je crois pas. Et aujourd'hui, physiquement, j'ai plus le. Voilà, je peux plus. J'ai pu pendant un moment, mais aujourd'hui, je peux plus. J'aimerais pouvoir faire les deux, mais non, la discipline de l'écriture empêche de faire trop la fête.
Les souvenirs reviennent grâce à un parfum, ce fameux parfum des fleurs la nuit, du galant de nuit. Et les souvenirs vous mènent vers votre père, lui aussi enfermé dans une cellule. Et vous nous racontez l'histoire de ce père que je voudrais que vous nous livriez, parce que ce souvenir qui revient et qui est présent dans tout le livre, le hisse, me semble-t-il, très au-delà d'une simple nuit et d'une simple visite au musée.
Oui, alors je n'en raconte qu'une partie parce que je ne suis capable de n'en raconter qu'une partie aujourd'hui. Parce que comme je le dis dans le livre, j'ai beaucoup de mal à penser à mon père. Je n'y pense pas souvent. Enfin, c'est pas que je n'y pense pas souvent. Il est là, présent, mais y penser est très difficile pour moi. Pas parce que c'est douloureux, mais parce que je n'arrive pas à aller au fond de cette
Qu'est-ce qui résiste ?
À m'y plonger. Je ne sais pas, c'est pas, peut-être parce que j'ai le sentiment que le jour où je m'y plongerai totalement, il faudra que je l'écrive et que ce sera vraiment un projet qui sera sans doute le plus grand projet pour moi en termes d'écriture. Donc je le garde à distance pour, comme disait Flaubert, que ça marine. Donc il faut que ça marine. Mais voilà, mon père, lorsque j'avais 13 ans, mon père a perdu son travail. Il était président d'une banque au Maroc et il a été mis au banc de la société. Il n'a plus jamais travaillé. Donc il est resté assis, toujours au même endroit, comme je l'écris dans le livre, à lire et à attendre.
Pardonnez-moi, mais peut-être faut-il le préciser, pris dans un scandale.
Voilà, dans un scandale politico-financier qui a défrayé la chronique au Maroc pendant des dizaines d'années. Et puis, au bout de 10 ans de chômage, d'attente, d'espoir déçu, il a été incarcéré Et en sortant, il est tombé extrêmement malade et il est mort de chagrin, vraiment très peu de temps après être sorti de prison. Et 6 ans après sa mort, il a été entièrement blanchi de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il a été réhabilité, mais donc, voilà, à titre posthume. Donc moi, j'ai toujours vu, pratiquement depuis que je suis jeune, j'ai toujours vu mon père enfermé. Mon père ne sortait jamais, d'abord parce que je pense qu'il avait honte. Il ne voulait pas que les gens le voient. L'idée que de rencontrer des gens dans la rue, de voir les gens aussi traverser la rue parce qu'ils n'ont pas envie de vous rencontrer, ils n'ont pas envie d'être vus avec vous. La honte sociale et le spectacle aussi de la lâcheté humaine, je pense, le dégoûtait. Donc mon père vivait enfermé, mais pas seulement dans la maison, enfermé dans les livres, enfermé dans la vie intérieure. Et mon père m'a appris une chose fondamentale que je n'oublierai jamais. C'est Balzac qui dit cette phrase magnifique: « Je n'ai pas placé ma vie sous le signe des sens qui s'émoussent, ni du cœur qui se brise, mais sous celui du cerveau qui durcit et qui survit à tout. » Vous pouvez vivre avec un cœur brisé, mais vous ne pouvez pas vivre avec un cerveau brisé. Et mon père m'a appris que si on voulait survivre, c'était important de placer beaucoup, beaucoup de choses dans son cerveau et d'apprendre, de penser, de réfléchir.
Question que vous posez à la fin du livre, est-ce que l'art répare? Est-ce que l'écriture répare? Réponse?
Non, je ne crois pas que ça répare. Je crois que l'énergie de l'écriture, c'est une énergie de la réparation. On prend cette souffrance et on la met quelque part. Elle est là, elle est dans un livre. Donc on peut la regarder, on peut essayer de la comprendre, on peut la partager. Mais ça ne nous répare pas fondamentalement et je dirais même que ce n'est pas souhaitable. Moi, je ne souhaite pas guérir de mes chagrins. Je pense que pour un écrivain, un chagrin, c'est son capital. Moi, quand j'ai des plaies, j'enlève la croûte, je gratte, j'enfonce des couteaux dans toutes les plaies que j'ai. Je le dis à un moment, je cultive mes chagrins comme les laborantins cultivent des bactéries dans des labos. Moi, c'est ça ma matière première. Je ne veux pas guérir, je ne veux pas arrêter de souffrir.
Là, vous répondez pour vous, mais est-ce que ça répare l'injustice faite à l'autre, notamment l'injustice commise et faite à votre père?
Ah oui, la littérature répare toutes les injustices, parce que la littérature, c'est ce moment où vous vous penchez sur un être et vous lui dites, tu vois, je vais te rendre justice. Dans le vrai monde, si tu vivais dans le vrai monde, Adèle, elle vivrait dans le vrai monde, les gens diraient, c'est une fille facile. La nounou assassine, les gens diraient, c'est un monstre. Mathilde, de mon roman Les Pays des Eaux, dirait, oh là là, c'est une femme frivole, elle comprend rien. Et bien, la littérature, elle vous permet de considérer l'autre, d'avoir de la considération pour lui, et de lui restituer une forme de dignité, et donc de lui rendre justice. Or, dans la vie quotidienne, on est tout le temps injuste avec les autres, et on le sait. On est dur, les autres, on les résume, on les met dans des cases. Et évidemment, en ça, pour moi, c'est pour ça que je suis devenue écrivain, et particulièrement romancière, parce que je crois que la littérature, elle peut réparer ces injustices-là.
Yvan Jablonka, le petit-fils de juif déporté et assassiné à Auschwitz, répare-t-il quand il entend cela, qu'il lit des romans, qu'il devient lui-même écrivain, qu'il brise les codes de l'histoire classique? Est-ce que vous avez le sentiment que l'écriture répare les injustices faites aux autres?
C'est même la définition de ce que j'essaie de faire. J'écris pour réparer le monde, j'écris pour que parle ceux qu'on n'a pas entendus, mes grands-parents, Laetitia, sa sœur jumelle, le garçon que je fus et qui a disparu. Oui, tous ces gens-là ont le droit à la parole, parce que sinon, ils n'existent plus. Et il y a une ultime injustice à oublier ces anonymes qui n'ont compté pour personne. Alors oui, j'écris sur eux, je raconte leur vie, et c'est ma manière de contribuer à réparer le monde.
Le parfum des fleurs la nuit, le nouveau livre de Leïla Slimani, c'est aux éditions Stock. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci Leïla Slimani, Philippe Besson, Yvan Jablonka. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez maintenant vous rebrancher sur les réseaux sociaux, répondre à la question qui va vous être posée là, dans un instant, et repartir avec les livres de nos invités. La semaine prochaine, sur ce plateau, Boris Cyrulnik et Bruno Latour, face à face entre le grand neuropsychiatre et le grand sociologue et philosophe des sciences, arbitré par la poétesse Lucie Taïeb. D'ici là, la petite librairie, tous les jours sur France Télévisions, et puis évidemment, cette émission que vous pouvez voir à nouveau en replay sur le site France.tv, que vous pouvez même écouter en balado-diffusion, c'est-à-dire en podcast. Voilà, je vous souhaite de belles lectures, à la semaine prochaine. We'll be right back.
C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.